direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On est, on est lundi matin ou je sais pas, c'est quand toi tu le regardes là, mais. C'est ça qui est weird, vu qu'à chaque fois, je vais pour dire « Hey, merci, on est en direct du bordel », parce que là, techniquement, nous autres, on est en direct, mais le monde qui regarde sont pas en direct. Si je suis désolé pour le monde qui écoute en ce moment, mettons, chez vous, dans l'autobus, c'est pas parce que toi, tu viens de peser sur Play que là, moi et les humoristes, on est comme « Attends, ok, go, on commence ». Non, ça fait un bout, c'est enregistré. Pour commencer, je voulais juste vous parler de... moi, en m'en venant ici à soir, il y a une nouvelle place qui a ouvert à Montréal qui s'appelle la Comédie Montréalaise. Que c'est dans un... c'est sur de Maisonneuve, c'est entre le quartier gay puis le quartier des spectacles. Et quand j'ai vu ça, la comédie comédie montréalaise, j'ai fait... puis il y a comme un dessin... ça fait très comédie, là, tu sais. Genre, un bonhomme sourire avec un chapeau stupide. Fait que là, j'ai fait, j'espère que c'est pas un comedy club. Vu que moi, j'aimerais ça qu'il y ait plusieurs comedy clubs à Montréal, mais je veux jamais qu'il y ait des comedy clubs avec un monsieur avec une face comique pis un chapeau stupide. Fait que là, j'ai googlé et j'ai vu que c'était pas ça. C'est un café-théâtre que ça va être des pièces françaises, des comédies françaises, c'est des pièces de théâtre. Là, j'ai fait « OK, ah, c'est cool, puis il n'y a pas ça à Montréal. » Ça va être le fun, mais là, en lisant, c'était juste écrit que la comédie montréalaise est le temple de l'humour montréalais. Puis là, j'ai fait « c'est de la confiance. » T'es pas rouvert encore, tu fais des hosties de pièces d'été, que du théâtre d'été que t'as pogné à Paris, mais t'es le temple de l'humour. J'étais comme « fuck you, là, hostie ». Ça serait comme s'il y avait un kid qui sort de l'école de l'humour, puis genre, son site web, c'est juste marqué « la référence de l'humour ». Je suis sorti de l'école la semaine passée, finalement du vrai stand-up à Montréal, câliste. Ah, c'est ça. Mais je leur souhaite bonne chance. Ça s'appelle la Comédie Montréalaise. Ce n'est pas le temple de l'humour, mais c'est ça a l'air. C'est ça. C'est, pour de vrai, ça va être cool. Si tu veux aller voir des pièces de théâtre drôles, ça va être genre, tu sais, dîner de compte, des affaires de même. Là, tu sais, c'est que le théâtre français est super drôle en passant. T'sais, là, j'ai pas de l'air sérieux là, avec ma face de marde, mais c'est vraiment drôle. C'est excellent. Bon, OK. Bon, fait que on va commencer le show là. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Merci à Yann Thériault qui s'occupe de ça, du podcast. Allez écouter son podcast qui s'appelle Le Stream. Google Le Stream, c'est très bon comme podcast. Pour ceux qui sont fans de vraie radio, genre, tu sais, de radio un peu à la... comme O.P. et Anthony faisaient dans le temps, ou ce que Anthony Cumia fait maintenant, ou ce que Howard Stern faisait avant de devenir une madame. C'est ce genre de radio-là qui fait, c'est vraiment, vraiment bon. Bon, fait que là, cette semaine, j'ai deux invités, que les deux, c'est leur première fois ici à l'émission. Je suis super content de les avoir, puis c'est la première fois que j'appelle ça l'émission. À l'émission. Carlis, on est devenu salut bonjour. Reste. Ça serait hâte de mettre la chanson au thème, tu sais, je vais dire leur nom, là d'avoir un ta 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 ta. Tu veux-tu mettre Sylvain Cossette quand il chantait ça? Rentre ça au montage. Je sais pas s'il y en a qui ont vu Sylvain Cossette. À un moment donné, pour fêter les 30 ans de Salut Bonjour, les 25 ans de Salut Bonjour, Sylvain Cossette et son band étaient là live, puis les retours de pause, Sylvain Cossette faisait « la 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 ». Puis là, tout le monde était comme « ah, pauvre, asti, ça a l'air, il reste plus de tunes des années 70, asti ». C'était, je me sentais mal pour lui. Puis c'est drôle, je suis même pas capable de chanter le thème de Salut Bonjour. J'ai regardé l'émission passer souvent. OK. Bon, fait que cette semaine au podcast, je reçois, commence à les applaudir tout de suite. Maude Landry, Charles Beauchesne, applaudissez-les. Salut Charles. Salut Maude, ça va bien? Merci d'être là.
Allô.
Merci à toi.
C'est très cool. Là, vous autres, vous faites... C'est quoi ce bruit-là?
C'est mon siège.
C'est ton siège.
Il y a de l'air.
Ça sonnait, tu sais, comme les autobus. Tu sais, les chauffeurs d'autobus, là, ça fait très...
Quand tu vas se baisser pour prendre un grand chaise roulante sur le trottoir.
Ah ouais, ouais.
Les autobus sont adaptés pour ça. Ils peuvent se pencher dans un bar quand tu as un dos dans la chaise roulante.
Yes! Pour
ton intérêt. Yes! Yes! T'es-tu venu ici en chaise roulante? Je sais que t'es venu en chaise roulante. Ça serait weird. T'es comme, non, j'ai marché, mais les bancs sont pas confortables, fait que... Mon frère qui est handicapé, j'ai dit, toi, attends dans la rue, moi, je vais m'asseoir dans ta chaise. T'es-tu venu en autobus? OK, en transport adapté. Ça, c'est comme, ils vont te chercher chez vous. C'est-tu gratuit, ça? Ça coûte combien? 80 piastres par mois, puis tu peux aller non-stop. Toute l'île de Montréal. Chris, tu devrais faire le tour de l'île avec les vélos, les encourager. C'est moins cher que je pensais, mais c'est quand même... Ça devrait être gratis.
En plus, c'est exactement le bon moment pour faire de la voiture à Montréal. Tout est fluide, la circulation, ça va bien.
Ça va, ouais, ouais.
C'est pas un labyrinthe de frustration, là. Il y a pas, tout va bien aller.
Toi, t'es-tu originaire de Montréal?
J'ai grandi à Brossard.
OK.
Ouais.
J'aime
vraiment mieux Montréal.
Brossard, on dirait, ça surprend. Moi, ça me surprend tout le temps.
T'as pas l'air de ça.
T'as pas l'air de ça parce que t'es pas asiatique. Non, mais c'est vrai. Tout le monde que je connais de Brossard sont soit chinois ou anglophones.
Oui, c'est vrai. J'avais beaucoup d'amis asiatiques, jeunes. J'ai crissé mon camp assez vite de Brossard. Ouais.
Moi aussi, j'avais beaucoup d'amis asiatiques parce que moi, j'allais à l'école anglaise à Québec. Puis c'était comme les premières années de la loi 101. Fait que il y avait plein de monde que leurs parents avaient pas le droit de les envoyer à l'école anglaise, mais qu'ils envoyaient pareil. Fait que moi, dans mon école, c'est tous les nouveaux arrivants, ils venaient tous à mon école.
Ah oui?
Fait que mon école, c'était moi, puis les nouveaux arrivants à Québec, c'était juste des Chinois. Fait que c'était moi puis une gang de Chinois.
Anglophones.
Du Chinois anglophone, exact. C'est bien fun, moi j'ai aimé ça au bout.
Moi, j'étais chez les Jésuites pendant ce temps-là.
C'est vrai?
Brébeuf, ouais, les derniers Jésuites, il en restait un quand j'étais à l'école, puis c'était le père Bourgeois qui enseignait la
chimie. S'appelais-tu le père Bourgeois?
Le père Bourgeois, ma parole. Ah, il y avait comme des grosses mains calleuses de travailleurs. Ses doigts, c'était des saucisses, puis son deal pour je sais pas, faire peur aux étudiants, j'imagine, parce que c'est la job des Jésuites. Il partait genre en cours de chimie des brûleurs Benson, là, tu sais, une espèce de plaque chauffante, là, tu fais chauffer des
puis il faisait brûler ses mains
sur le brûlé. Il disait genre, je vais vous montrer c'est quoi l'âge puis l'expérience. Père bourgeois, pour l'amour du ciel.
Seigneur!
Ouais.
C'est pour ça t'es fucké.
Ouais, entre autres choses. Il détruisait les ampères-mètres. Il se fâchait contre nous quand on faisait pas bien notre espèce de branchage. Parce qu'on avait des cours de brancher des affaires, puis créer des circuits. Puis quand on l'avait pas comme il faut, il smashait les ampères-mètres sur le comptoir. C'est pas comme ça que ça marche! Il se refaisait brûler les doigts pour nous faire peur, je sais pas.
C'est weird.
Ça, le dernier des Jésuites.
C'est une école privée, en plus.
Okay, ça, c'est privé dans le tapis. On avait des Asiatiques, nous aussi.
OK. Mais fait que là, tes parents payaient pour ce style weirdo-là.
Ils étaient riches, tes parents.
Oui et oui. Oui, c'est ça, là. C'est beaucoup de traumatisme, d'hostilité à l'école.
Ils se faisaient niaiser parce qu'il y avait un chauffeur qui l'amenait à l'école.
Ça, c'était à l'école primaire, Maud.
C'est au primaire? Il se faisait niaiser, fait qu'il débarquait un peu avant pour arriver à l'école.
Ah, t'avais honte de ton chauffeur.
Un instant, c'était pas un chauffeur. C'est ce qui se passe, c'est que ma mère me trustait pas pour rentrer à la maison tout seul quand j'étais au primaire, c'était au primaire. Et elle avait elle a conclu un deal avec un chauffeur de taxi pour qu'il vienne me chercher à la sortie. Oui oui, non, j'ai des parents vraiment bizarres comme ça, puis fait qu'à tous les soirs à la fin de l'école, il y avait le même chauffeur de taxi haïtien qui venait me prendre, qui me ramenait. Mais oui, c'était ça. C'est un bon deal, là. J'imagine que c'était lucratif pour lui, là. Sa fille gardait chez nous aussi à la maison. Elle a comme rentabilisé la famille au complet.
OK. Comme dans les films, là,
Quel film?
Non, mais tu sais, souvent dans les films, genre, la famille riche, ils ont genre, tu sais, ben, tous les vieux films d'Adam Sandler, mettons, il va avoir genre, la femme de ménage, elle reste dans la maison, puis son fils tombe en amour avec la fille de la femme de ménage. T'es-tu tombé en amour avec la fille du chauffeur de taxi?
Non.
OK. Ça l'aurait été beau.
Non.
Ça l'aurait été beau, tu trouves pas?
Ben non, j'étais à un âge où j'étais facilement sexuellement intimidable, en fait, puis j'étais quand même plus vieux qu'un...
T'étais intimidé.
Oh non, on ne peut pas dealer avec ta tension sexuelle de fille de 16 ans. Je suis en 6e année. Je peux
OK,
pas...
oh, ouais, non, ouais, c'est vrai, ça l'aurait été oublié.
Je me faisais garder, je te le rappelle.
C'est vrai. Moi, j'avais oublié ce bout-là. Fait que c'est elle, fait que dans le fond, c'était eux autres, ta famille, tu sais. T'avais ce monsieur-là qui venait te chercher.
C'est
là,
une tristesse infinie.
Sa femme, c'était quoi la relation que t'avais avec?
C'est drôle parce que le monde, moi, j'appelle mes parents par leur prénom.
C'est vrai.
Puis le monde trouve ça vraiment bad trippant. Je sais pas s'il y a du monde qui appelle...
T'appelles ta mère Jocelyne.
Jocelyne, là. Ça s'appelle comme Jocelyne. Ça. C'est pas un tabou, là. Ma mère s'appelle Jocelyne. Et André. Puis les gens sont comme, oh, t'appelles tes parents.
Chauffeur de taxi, tu l'appelles Papa Pedro.
C'était Monsieur Belfond. C'était un monsieur très sympathique.
Monsieur Belfond?
Monsieur Belfond.
Père bourgeois, Monsieur Belfond.
Il y avait un cure-dent dans la bouche. C'était vraiment...
Tu vis dans l'univers de Tintin.
Ah ouais. Monsieur Belfond.
D'une certaine façon, oui.
Mais, ouais, la femme de Monsieur Belfond, était-tu... Elle, c'est quoi qu'elle faisait pour ta famille? C'est elle qui faisait tes lunchs?
J'ai jamais eu le... Oh là là, c'est glissant tout ça. Madame Belfond est restée hors du paysage de la famille Beauchesne pendant longtemps. Fait que je sais pas, honnêtement, j'ai aucun indice de l'existence de Madame Belfond.
Elle, qu'est-ce qui est weird? Tu sais, sûrement qu'eux autres parlaient de toi au souper, vu qu'ils...
Ils devaient tellement nous détester, là. On était tellement l'archétype de la petite famille bourgeoise pour qui il faut faire des affaires. Fait que non, ils devaient nous haïr. Ils devaient sacrer dans notre dos, puis... Prendre l'argent qu'on leur donnait pour s'occuper de nous.
T'as-tu des frères, des sœurs?
J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. Il est rendu à 26, 30 ans.
Ouais, fait que lui, 27. Il embarquait dans le taxi avec toi?
Oui, lui aussi, oui. Okay. On était...
Dans le même taxi où il y avait Monsieur Belfond à lui?
Non, c'était pas un deal avec moult chauffeurs de taxi. Non, on a décidé de rentabiliser le même chauffeur.
Ouais. OK, fait que c'était moins gênant que d'arriver en...
C'était super gênant.
Mais tu sais, un taxi, c'est pas gênant.
Quand t'es un enfant de 6e année qui prend le taxi tout seul, là, il y a comme un décalage. Là, les
élèves... C'est niaisé par ceux qui arrivent à... Mais un autobus.
C'est l'école primaire, puis l'école secondaire, c'est la même chose aussi. Tu vas toujours chercher. T'es tellement mal dans ta peau, pis t'es tellement pas bien, pis t'es tellement plein de colère, pis de harme, pis de frustration d'être stressé à l'école, que tu vas trouver quelque chose de différent sur lequel varger, parce que c'est la chaîne alimentaire de l'école, là.
C'est
que
cruel,
tu sois...
les enfants.
Ah, c'est des mardes, les enfants.
Aujourd'hui,
là, j'ai des fantasmes de vengeance, de genre, pouvoir voyager dans le temps puis me téléporter en secondaire 1, mais avec mon intellect d'aujourd'hui, puis détruire psychologiquement des élèves, là, puis être comme, ah, ta vie, c'est rien, t'es gros, puis t'as des boutons, puis tu seras jamais populaire. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens, c'est ça qui se passe.
Toi, ton enfance, c'était-tu mieux que ça?
J'avais deux grands frères.
OK.
Fait que j'avais une Barbie, mais elle était attachée sur une chaise avec une bombe. Puis... Je peux plus jouer que des jouets de
bombe. Ils ont quel âge, tes frères? Ils sont-tu bien plus vieux? Ou...
Non, il y en a un qui a à peine 2 ans de plus, l'autre 4 ans de plus.
Fait qu'ils devaient te protéger non-stop à l'école?
S'ils me cassaient pas à gueule, ils me protégeaient.
OK. Ah ouais, c'est ça qui est mauvais. Fait que... tu te faisais protéger une fois par mois, oui. Mes pattes, quatre.
C'est ça. Quand quelqu'un d'autre essayait de me casser la gueule, il était comme, non, c'est moi, puis il cassait la gueule à lui. Oui.
T'étais-tu, t'es-tu proche avec eux autres maintenant?
Oui, quand même okay. Proche. Ben, ils font pas la même affaire que moi, ça. Je suis plus de domaine artistique, je suis le mouton noir.
Eux autres, qu'est-ce qu'ils font?
Ils font policier puis dans la construction.
OK.
Quoi?
Non, c'est amusant, policier puis dans la construction, c'est deux...
Ça, on dirait, man, village people.
Village people.
Mon autre frère, c'est un Indien.
J'ai mon frère, c'est un Indien. Moi, j'ai appris de quoi que j'ai vraiment... Je pense que j'en ai déjà parlé ici.
Merci!
Mais le policier... Ça. Le policier dans Village People, c'était le seul qui était pas gay. Mais il y avait un problème de drogue, puis il a pris cette gig-là, vu que c'était ultra
payant. Village People était gay?
C'est le seul qui était pas gay.
C'est le seul qui était pas gay. Okay. Ouais. Que lui...
Ça explique soudainement beaucoup de choses.
Ce, mais pas de vrai, tu
non, mais je sais. Okay. Oui, mais je n'ai pire, pas vraiment le choix, Mike.
Moi, le pire, quand j'étais petit... T'es-tu gay, toi?
Non.
OK. Non. Parce que là, je comprenais pas le... J'ai pas le choix. Non. Là, c'est comme, c'est quoi qui se passe?
Non, c'est qu'eux étaient monumentalement gays.
Mais moi, je le savais pas quand j'étais petit. Moi, là, quand j'étais petit, je regardais les Village People, pis ça m'a pris... Moi, j'ai appris qu'ils étaient gays, genre... Pas l'hiver passé, là, mais tu sais, genre en secondaire 2.
T'avais pas saisi les indices?
Moi, j'avais pas saisi. Moi,
la Marine,
WAM,
pis le YMCA.
Moi, fuck all. Tu sais, moi, je...
Comment tu l'as appris?
Je me rappelle pas comment que j'ai appris.
Tu as croisé avec Boy George?
Non, mais Boy George, moi, WAM, je catchais pas qu'il était gay. Moi, là, quand j'étais jeune, mon gaydar était brisé, là. Je voyais rien de ça. Rien. Moi, c'est, ouais, c'est ça. J'ai un de mes cousins qui est sorti du garde-robe, genre, il y a 3 ans. Puis, quand j'étais petit, je le voyais pas, qu'il était gay. Puis, il y avait un coloc. Tu sais, il vivait avec son... Il amenait son coloc à Noël. Puis, c'est comment il fait son coloc?
Son coloc!
On collait pas mal, eux autres. Hein? Mais c'est ça, je le voyais pas. Mais, moi, ouais, j'ai appris qu'un des Village People était pas gay. Fait que peut-être je regardais juste lui. C'est peut-être ça.
C'est lequel qui
était le policier black.
Ah, pourquoi? Sa moustache était évocatrice. Okay.
Ouais, mais je pense que c'est pour ça que c'était lui qui avait l'air le plus gay pour faire comme « Hey, checkez ma moustache!
» Moi aussi, je suis gay, les garçons.
Ça, qu'est-ce qui est weird, tu sais, il y avait un documentaire que j'avais vu. Tu sais, sa femme, elle disait... T'sais, surtout à ce temps, t'sais, le monde sont moins homophobes. Dans les années 70, le monde était tellement homophobe. Fait qu'imagine, t'es la femme du chanteur gay.
Pas gay.
T'sais, là, t'es comme, non, il est pas gay, il a juste un problème de coke. Puis, il faut qu'il fasse semblant d'être gay pour payer sa drogue.
Il est juste drogué.
Mais vous autres, toi, tu savais depuis que t'es né, que ben
pas la première fois que je suis depuis que je suis né, les Village People sont très
Village gays. People, tu le savais tout le temps?
Ben oui, mais ça me semble que c'est assez évident. Là, ils font, je dirais, dans la marine, on fait plein d'affaires homosexuelles. YMCA. C'est pas mal ici que ça se passe au YMCA.
Ah, mais, hey. Parce que quand j'étais petit, on allait au YMCA pour faire de la natation.
Ricky Martin aussi donnait une coupe d'indices qui était assez solide, si on prend le temps de d'éplucher son répertoire, là.
Moi, j'ai découvert qu'Elton John était gay.
Son piano est rose.
Je le savais pas.
Ses lunettes sont en forme de cœur.
Village People, gens du village.
Ouais, mais à Québec, moi, je pensais que c'était du monde de campagne. C'est du monde du village. Je pensais que c'était du monde de Charny.
Tous les métiers, le cowboy.
Non, mais je le savais vraiment pas. Je le savais vraiment pas. C'est vraiment stupide.
Non, les gens, il y a des gens qui sont gays. Conclusion.
Mais moi, j'avais appris... Puis même ces Village People, c'est là que j'ai appris. Mon frère avait un livre qui s'appelait « The Book of Lists ». Ça faisait des listes, mettons le top 10 films, top 10 c'était l'affaire. Et il y avait le top 10 des chanteurs gays. Puis là, j'avais
mais comment vu... comment c'était échafaudé, genre qui est le plus gay?
Le plus gay?
Non, je pense que c'était le top 10 des meilleurs chanteurs qui sont gays. Ou c'était les années 80, fait que c'était peut-être 10. Hey, lui, il est gay en tabarnak, tu sais.
Mais quel baromètre tu utilises pour mesurer l'homosexualité de quelqu'un?
Aucune idée. J'ai aucun... Ouais, il faudrait que je trouve ce livre-là.
Ça a l'air que David Bowie était pas gay.
Non, mais...
David Bowie...
Lui, il était dans le book of list de...
Il était
dans le top 3 bisexuels. Vu qu'il y avait juste 3 bisexuels. Il y avait lui, il y avait Mick Jagger. Puis il y avait... Je m'en rappelle plus qui.
J'étais tombé sur une entrevue récemment d'une fille, une groupie de David Bowie qui a couché avec. Puis elle racontait son aventure. Puis mon Dieu, c'est très étrange, parce que c'est David Bowie qui l'a croisé à un moment donné. Puis à un moment donné, il a envoyé son garde du corps la chercher, la petite fille a 15 ans, là. Il a envoyé son garde du corps la chercher à la maison. Oui, oui, David Bowie, il était vraiment étrange.
Et il a envoyé Monsieur Belfond.
Il a envoyé son équivalent de Monsieur Belfond. chercher la petite fille pour la ramener à sa chambre d'hôtel avec sa meilleure amie, parce que sa meilleure amie était une grande fan de David Bowie, puis elle l'a traîné là aussi. Fait que, il leur a fait fumer du pot. Il leur a fumé du hash, excuse-moi, dans sa chambre d'hôtel, d'après ce que dit la fille. Puis, à un moment donné, il a demandé à une des filles d'aller attendre à l'extérieur de la chambre parce que il fallait fourrer. Et c'est ça, il est allé prendre son bain. En fait, il serait arrivé avec un gros kimono japonais, puis il aurait demandé à la petite fille de 15 ans de le suivre dans sa salle de bain. Puis il serait déshabillé, puis il aurait demandé de laver David Bowie. Puis ensuite... Oui, ça a été une partie de son expérience de laver David Bowie. Et ils seraient allés à la chambre par la suite, puis après qu'ils aient eu des relations sexuelles entre hommes androgynes puis mineurs, la fille aurait dit « Hey, excuse, il y a ma chum qui attend encore dans la chambre à côté pendant que je te lave puis qu'on fout. Y a-tu moyen? » Ah, oh, ben, crime, je savais pas qu'elle était intéressée. Fais-la venir. Fait qu'ils ont eu un trip à trois par la suite. Okay. Ouais. David Bowie, mesdames et messieurs.
Hey, mais elle, la fille qui attendait dans le passage, ça veut dire pendant une demi-heure, elle était comme, ah ouais, ah, il me trouve laid, ah, je devrais m'en aller. Puis là, finalement, la porte, tu sais, la fille a ouvert la porte, elle a fait, finalement, t'es pas si laid que ça.
This is ground control.
Mais y a, cette génération-là avait...
Ils aimaient fourrer.
Mais, puis il y avait...
Beaucoup.
Ma famille, du côté de ma mère, c'était catholique. Fait que, tu sais, ma grand-mère, elle s'est mariée, je pense, avait 17 ans. Mon grand-père avait...
T'es descendance irlandaise, hein?
Oui, mais protestant. Ah. Oui, il y en a pas beaucoup, là,
voilà
mais...
qui est très étrange.
Oui. Non.
Non, il y en a.
Oui, non, il y en a.
Mais... Attends, les Irlandais protestants, ça, c'est ceux de l'Irlande du Nord, c'est ça? Oui, parce qu'ils sont sous le joug de l'Angleterre, fait que techniquement ils partagent de quoi, puis
non,
les catholiques c'est l'Irlande.
Ceux du Nord sont plus catholiques. Vu que
c'est l'inverse.
Ah ouais, mais vu que c'est l'Irlande du Nord qui était le IRA.
Mm-hmm.
Puis le IRA c'était plus catholique que protestant.
C'est quoi le IRA?
C'est les terroristes irlandais.
Ah ouais, c'est ceux qui font péter des pubs.
Ouais, Republican Army. Moi quand j'étais petit, tu sais, être terroriste, aussitôt que t'entendais le mot terroriste, tu t'imaginais des gars qui ressemblaient à moi. C'était vraiment juste des Irlandais.
Des casquettes en tweed, là.
Ouais. Puis un petit problème d'alcool, là, qui sont comme...
Okay, I'm blonde roux, faut pas boire un tube, c'est le Pathfinder.
Ouais.
Il faisait sauter des bombes?
Ouais, il faisait sauter beaucoup
des barres.
Il lançait...
Des barres, mais des barres à l'aide de bombes.
Il lançait tout le temps, tu sais, les... Ben, je dis tout le temps, là, dans les 4 films que j'ai vus là-dessus, là. T'sais, des cocktails Molotov. Chaque fois, je voyais dans mes films. Ouais. C'est des cocktails Molotov, puis après, il allait se cacher. Puis il se cachait chez Harrison Ford. C'est ça.
Ça contient quoi, un bon cocktail Molotov? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste genre du gaz dans une bouteille ou genre de l'alcool?
C'est juste gaz dans bouteille.
C'est pas un vrai cocktail, c'est juste un single gaz.
Ouais, c'est ça. C'est plus une bouteille de gaz.
Oui, mais la guenille, c'est la mèche, mais je... Excuse-moi, il y a un doute qui est en train de me...
Puis il faut que tu trempes la guenille dans le gaz avant.
Mais c'est juste du gaz, donc c'est pas un cocktail.
C'est zéro un cocktail. Ça devrait être bouteille de gaz.
un Molotov.
Mais puis c'est ça. Puis c'est la bombe la plus bas de gamme de l'histoire.
Mais l'effet est cool, par contre, quand
ouais,
ça.
Mais ouais.
Quand ça pète.
Mais moi, j'aurais peur de. Tu lances, tu sais, je sais pas si t'as déjà lancé une bouteille pleine, ça casse pas une bouteille pleine. Fait que j'aurais peur de lancer mon affaire, ça tombe juste à terre, et là, le feu vient vers moi, tu sais.
Ouais, le, comme ça coule du gaz, fait que la ligne te suit.
Puis moi, j'ai les doigts toutes pleins de gaz, vu que je suis trempé.
T'es juste brûlé des doigts, ouais. Finalement, tu te ramasses avec un problème de père bourgeois.
Puis moi, je sais pas. Peut-être père bourgeois était irlandais. Il était comme, moi, je pourrais vivre en Irlande. Brûlé.
En fait, le nom cocktail Molotov, si je ne m'abuse, ça
c'est
vient...
un monsieur Molotov.
C'était, oui, c'était un russe sous, oui, évidemment, sous Staline, le ministre de quelque chose, le Molotov, puis c'est un...
Ministre de la culture.
Ouais, ça doit être ça. Ça sera... Son deal, c'est de pitcher des bouteilles de gaz. En fait, non, c'est les révolutionnaires russes, en inventant ça, qui ont donné le nom du au cocktail, puis vieillissaient ça pour mourir.
OK.
C'est tout.
Voilà, pas, moi, il me semble, j'aimerais ça qu'il y ait une bombe qui a mon nom.
Un Ward?
Ouais, oui, un Ward. C'est tabarnak.
Ils ont mis dans du plastique Ward en dessous. Ouais. Ça, c'est amusant. Ça.
Ouais, non. Ben, dans un plastique, ça serait une mauvaise bombe, me semble.
Du plastique?
Ouais.
Non, c'est de la crise de bonne bombe.
OK, ça. OK. Pas mal. Non, je pensais...
La meilleure sorte de bombe qui existe.
Je pensais que tu voulais dire mettre du gaz dans une bouteille de plastique.
Alors, ça, c'est une mauvaise idée, surtout
ouais,
la ligne.
Ouais, non, c'est ça.
Ça, c'est une catastrophe. Ça, ce n'est pas le bon plastique. C'est drôle, j'étais en train d'écouter une série de documentaires sur... les 42 tentatives d'assassinat qui ont été faites sur Adolf Hitler, puis ils ont toutes survécu. 42 fucking tentatives d'assassinat. Hitler avait le cul bordé de nouilles, là, c'est...
Où les tentatives étaient vraiment ratées, là.
Non, c'était la plupart d'entre elles étaient vraiment ouais, c'était des affaires de genre cacher du plastique explosif dans des contenants à cognac qui étaient censés être placés dans la soute à bagages de l'avion d'Hitler pour que l'avion explose en plein vol.
Mais comment il s'en est sorti? C'est exemple.
Pur, il y avait le cul bordé de nouilles Maud. C'est terrifiant. Ici, il était chanceux. Il y avait, c'est parce que la façon dont ça fonctionnait, c'est que.
C'est une vraie expression.
Le cul bordé de nouilles,
Le cul bordé de nouilles?
Ça doit être européen.
Être comme.
Cul bordé de nouilles.
C'est comme un plein de marbre, des chanceux.
La façon dont ça fonctionnait.
Où ça fait quelqu'un, qui a comme les culs weird,
C'est comme un bricolage de maternelle.
Pas des verrues, ses fesses.
Non, un autre qui a le cul bordé de nouilles, zut alors. Ouais. Je disais, ah oui, la façon dont ça fonctionnait, les explosifs, en fait, c'était des blocs de plastique explosif dans lesquels tu plugues un stylo détonateur. Ça, c'est une espèce de patente que, avec des pinces, tu brises un bout du stylo, puis il y a un liquide chimique qui ronge un fil en cuivre qui va activer le marteau qui va faire détonner ton plastique explosif. Puis en mettant ça dans le crate à cognac de qui était destiné à Hitler, la soute à bagages n'était pas pressurisée. Donc le froid a fait que ça a chié les crayons détonateurs, puis l'avion pas explosé. Pis ce gars-là par la suite, c'était
mais le crayon détonateur, il fallait que quelqu'un l'active.
Il fallait que quelqu'un avec une espèce de pince crocodile brise le bout du crayon. Comme ça, il y a comme un mécanisme interne vraiment pas précis. Non, ça peut péter de 5 à 10 minutes puis des marteaux avec le résultat.
Moi, je pense, ça pourrait être aussi genre, mettons, la personne qui était supposée de faire ça, mettons, l'agent de bord, tu sais, que genre, choqué puis qui a fait « Non, ça a gelé, ça a pas marché, j'ai vraiment essayé, là. J'ai pas dit être là, non, on boit pas. »
Mais je sais pas... Ça serait vraiment étrange que le pilote soit de mèche avec ce plan. Oh, on va exploser.
Non, mais ça...
Ouais, pour l'Allemagne.
Non, mais il y a sûrement quelqu'un qui serait... T'sais, moi, j'aurais été willing à l'époque
le même
de
dude,
mourir pour tuer.
Le gars du plan, justement, du plan des crates de cognac explosif, après qu'il a vu que cette première tentative-là a explosé, il était censé... il s'est dit, « Fuck it, je vais faire une mission suicide. » Fait qu'il a mis d'autres plastiques explosifs avec des crayons détonateurs dans une mallette.
Des
hosties de crayons détonateurs.
Son frère, il devait vendre des crayons détonateurs. Ben oui, je vais t'en acheter, Raymond.
Il était censé se faire... Il était censé se faire exploser pendant qu'il faisait visiter un musée d'armement à Hitler. Puis finalement, Hitler a trouvé qu'il avait l'air trop stressé. Puis ça l'a comme mis mal à l'aise, fait qu'il a comme quitté plus rapidement la visite. Puis le gars était obligé de faire comme « Ah non, mais shit, c'est pour une prochaine fois, malheureusement. »
Le gars, il a-tu réessayé une troisième fois?
Il y a eu une troisième... À l'intérieur du haut commandement, parce que ça, c'est des Allemands qui s'est tué Hitler, à l'intérieur du haut commandement allemand, une couple d'années plus tard, il y a eu von Stauffenberg, qui est un gars qui, en Afrique du Nord, il a perdu un œil puis une de ses mains, puis il n'était pas content. Fait qu'il a... son deal à lui.
C'est quoi son nom?
Von Stauffenberg, je me souviens. Klaus von Stauffenberg.
Von Stauffenberg, c'est que ça sonne.
C'était un nazi.
Mais avec le début de Von, ça sonne comme un clown raté.
F-O-N-N-E, ouais. C'est V-O-N. Okay. C'est les V, c'est pas puis anyway, son deal, lui, c'était... Il était censé activer les crayons, les stylos détonateurs dans une mallette.
C'est encore,
c'est encore les stylos détonateurs.
Mais la morale de l'histoire, ça marche pas, ces stylos-là.
Ça a marché. Ça a fonctionné, sauf que ce qui s'est produit, c'est que il avait mis, étant donné qu'il manquait une main, il va plus activer ses deux charges d'explosifs.
Il manquait une main!
Il manquait une main, il avait perdu en Amérique du Nord, il manquait une main puis un œil, fait qu'il était comme baisé, puis fouille-moi pourquoi c'était lui qui ont donné la tâche de faire partir les crayons détonateurs.
Ah ouais. Moi, j'envoie un gars faire une job manuelle, tu fais « Ok, on va envoyer le gars avec un mognon puis juste un œil. Vas-y! »
Von Stauffenberg, bonjour! Je suis votre homme! Puis il a mis la mallette, en fait, en dessous de la table de conférence du Führer. Et étant donné qu'il restait juste une charge explosive, ce que ça a fait, c'est qu'en explosant, puis là, attachez bien vos ceintures, en explosant, ça a fait péter la table, la patte de la table. La table a reviré à la verticale, puis ça a créé un bouclier protecteur qui a juste protégé Hitler.
Ah, oh, ouais!
Seigneur,
le cul bordé de nouilles.
Asti!
J'aurais pu juste essayer d'y planter un crayon dans la tête. T'sais, c'est un crayon aussi.
À place du crayon, moi, juste un
question de rentabiliser le crayon détonateur.
Ou, tu sais, c'était tout, en plus, c'était tout des militaires, fait qu'il y avait des fusils. Tu sais,
il est avec son crayon.
Levé comme, OK, si je rentre ça dans un pamplemousse rempli de plastique, là, en pliant ça de même,
On est dans les années 40, c'est bien compliqué.
Il est parti là-bas, OK. Hein? 42 fois. Ouais.
42 tentatives. Hey, à un moment donné, quand c'était à la première game... Hey, je parle juste d'Hitler, en plus, je suis sujet aussi. Mais... Une fois de plus, je ne parle que d'Hitler.
Mais j'avais vu un documentaire sur lui que... Tu sais, parce tu sais le corps qu'ils ont retrouvé, ils ont jamais retrouvé son corps à lui.
Il s'est fait brûler dans un de ses derniers ordres, c'était de brûler son corps dans la cour de la chancellerie du Reich, puis là, à partir de ce moment-là, les légendes sont parties.
Mais une des légendes que j'avais entendues, puis je sais pas si c'est vrai là, mais c'est que les Russes ont fait des tests d'ADN sur le crâne d'Hitler, puis ils ont trouvé que c'était une femme.
C'était pas lui.
Ouais, que non, c'était pas lui.
Mais en même temps, il s'est fait brûler avec Eva Braun, qui était juste à côté, fait qu'ils sont peut-être juste trompés de crâne aussi.
Mais d'après moi, il aurait testé les deux crânes. Il aurait pas fait, OK, c'est quel Hitler pis sa femme, on va prendre celle-là. Ah non, ouais. C'est ça de madame.
Mais c'est les Russes, ils mentent beaucoup.
Mettons qu'il est encore en vie aujourd'hui, il aurait quel âge? N'as-tu qu'ils peuvent faire le calcul?
Il est mort à, si je ne m'abuse, à 56.
Fait que là, il serait mort.
Il serait fucking mort. Il souffrirait du léger handicap d'être décédé.
Il serait fucking vieux.
Tu sais où t'as appris toutes ces affaires-là? C'est-tu ton monsieur avec les gros doigts?
Non. J'écoute des documentaires. J'aime ça. J'aime ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fascinant. Il y en a un qui, en fait, j'ai une série de documentaires que je suis en train de me taper en ce moment. C'est Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste des films d'archives colorisés. Puis c'est lourd. Tu dis, c'est d'une lourdeur infinie. Mais c'est le fun. C'est cool à regarder. Là,
Fait que c'est des archives, mais
colorisé. Ouais, fait que t'as vraiment tout ce qui s'est passé de A à Z, puis c'est weird parce que t'as vraiment des grosses scènes de combat filmées sur le vif pour se rappeler qu'à l'époque ils avaient juste des petites vieilles caméras 1940.
Ouais.
C'est surprenant qu'ils aient réussi à filmer ça avec une aussi belle qualité. C'est Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale, 6 épisodes, c'est crissement le fun.
C'est sur Netflix?
C'est sur YouTube puis Vimeo là puis toutes les chutes là, googlez-le. Là.
OK.
C'est ça.
Toi, t'es-tu fan d'histoire de même?
Ben, il m'intéresse beaucoup à ça. Tu sais, le documentaire que tu m'as montré sur les Olympiques nazis.
Ah oui.
Les Olympiques nazis.
Chris, t'as passé proche de jouir quand elle a dit ça, les Olympiques nazis. Ah fait... oh, oui.
Non, c'était un « Ah oh, oui, quelle anecdote. » C'est drôle.
Fait que c'était juste des nazis qui...
Non, en 1936...
Ah, mais c'est l'année que Carl Owens...
C'est Jesse Owens.
Jesse Owens, excuse, je me mélange avec Carl Owens. Mais il avait gagné 4 médailles d'or.
Le 100 mètres à relais, le saut en hauteur. Ouais. Il n'était vraiment pas content parce que c'était un noir.
Mais c'est la beau, c'est tellement magique.
Ah, c'est mais dans ta face, nazisme.
Ouais.
Oui.
C'est quoi que t'aimais de ces Olympiques-là?
Plus proche?
Merci. Ouais.
Merci, Bass. Pas tant que ça, en fait.
OK.
C'était le fun 10 minutes.
OK.
Mais moi, j'aime ça m'imaginer parce que je suis blonde aux yeux bleus. Vraiment blonde. J'ai pas choisi. C'est vraiment blond. Puis, à l'époque nazie, j'aurais été, une race aryenne.
J'aurais été brisé.
J'aurais été une reine à cette époque-là.
Grisse-moi avec
j'aurais pu, comme, cruiser Hitler puis m'en sauver.
Il y a d'autres façons de se sauver d'Hitler qu'essayer de le cruiser aussi.
Non, mais je serais resté en vie, j'aurais été,
Oh oui.
Moi, c'est avec mes yeux asiatiques, ils m'auraient tué.
Toi, tu finis là, t'as été
choc.
Mais ouais.
T'es trop métissé, Mike, c'est ça qui se passe. Les nazis étaient pas ouverts d'esprit.
Ah, t'as pas.
C'est un de leurs défauts.
Ils sont pas bien ouverts. Ils ont tendance.
Ça me fait capoter qu'il y en a encore.
Des néo-nazis,
oui,
en esti.
Moi, j'avais, quand j'étais au secondaire, il y avait une affaire que j'avais faite. Un moment donné, j'étais sorti avec mes amis, puis sorti. On avait été fumer du hash. C'est plein.
Sorti dans la rue.
Puis on avait été, genre, il y avait un Wendy's, on avait été au Wendy's. Puis là, j'avais, il y avait des petits sachets de ketchup que je pilais dessus. Puis ça avait explosé, ça avait tombé ses bottes dans un skin. Puis là, il était comme, il faut que tu liches mes bottes.
Oh,
j'étais comme, ouais. Puis il avait comme 19-20 ans. Puis là, je l'avais pas fait, je m'étais sauvé. Puis là, les skins m'avaient couru après, puis ça m'avait traumatisé. Puis là, le lundi, j'étais à l'école, puis les gars, c'était des skins de Toronto. Puis ils savaient que nous autres, on était anglophones, puis des anglophones à Québec, il y en a 6, là, tu sais, il y a 2 écoles anglaises. Fait que là, je voyais les skins marcher devant mon école.
Les néo-nazis canadiens anglais.
Puis là, j'étais comme, ah, tabarnak, ah, j'étais stressé. Finalement, ils ont rien fait. Mais là, après ça, moi, pour prendre ma revanche, je faisais, aussitôt que j'avais 16 ans, je me promenais en char, puis aussitôt que je voyais un skin, je volais son coat pis ses bottes. Puis je faisais tout le temps ça, tu sais. Puis,
Avais-tu genre un garage plein de manteaux de skinhead?
Non, je donnais les bottes à mes amis punk, vu que des Doc Martens, tout le monde aime ça.
Tu essuyais le ketchup avant?
Ouais, c'est ça, j'essuyais le ketchup. Puis les bombers, j'ai jeté au vidange. T'sais. Mais puis là, on avait réalisé, après une couple de fois, que c'était les skins avaient peur. Vu qu'ils entendaient parler qu'il y avait des hosties de fous qui arrivaient voler leur côte. Fait que là, moi, j'avais eu un plan. Je m'étais dit, on devrait s'habiller. On va mettre leur manteau, leur kit.
Ça, c'est une bonne idée,
on avait
ça.
Plein. Fait que là, ils vont nous voir. Ils vont nous faire confiance. Puis là, on va les attaquer.
Se déguiser.
Déguiser en néo-nazi. Comment ça peut mal tourner?
Puis on avait volé du stock d'un gars qu'on s'est fait pogner. Puis là, lui, le gars, genre 15 ans après, c'était ça qui était weird, tu sais. Lui, son père, c'est un policier. Fait que là, moi, j'avais été en cours pour ça avec mon ami.
C'est un skinhead, son père, c'est un policier.
Ouais.
Mon
Dieu. Il y a beaucoup de, tu sais, c'est pas parce que t'es policier.
Ouais, il y a le cul plein de nouilles, là.
Ouais, ouais.
C'est approximativement ça, là.
Chanson,
il y a le cul plein de nouilles.
Ah, bordé de nouilles! Bordé!
Le cul plein de nouilles.
Il y a le cul plein de nouilles.
Le cul plein de nouilles.
C'est une façon de le voir, Maude.
J'aime mieux le cul plein de nouilles, moi.
Bon, ben, on proposera ça à l'Académie française.
Parce qu'il mange beaucoup de pesto.
Les néo-nazis.
Il mange beaucoup de pâtes. Non, le lien entre ça puis être chanceux, parce que ça veut dire être chanceux.
Mm-hmm.
J'imagine, ça veut dire que tu manges beaucoup de nouilles, tu peux te payer beaucoup de nouilles.
Parce que t'es chanceux.
Fait que t'as le cul plein de nouilles.
C'est juste les riches qui peuvent se payer des pâtes.
Les aspartes.
C'est une boîte de spaghetti à 1,19. Il y a des juste spaghetti. Le millionnaire. Tu sais, des ramen, là. Il y a juste...
T'es tellement chanceux que tu peux te payer un paquet de glucides.
Un paquet de ramen.
Donc, le cul plein de nouilles. Ah, c'est con.
Ouais, j'avais été en cours pour ça. Qu'est-ce qui m'avait sauvé? C'est que le gars que j'avais volé les côtes avec, qui s'appelait Mike aussi, puis lui, sa mère était amie avec le juge, puis là, avait dit au juge, « Asti, c'est mon fils, il est correct, mais il est avec un asti de bum, c'est le bum qui a convaincu de faire ça, c'était moi le bum en question. » Mais là, moi, je suis arrivé en cours, et j'ai réalisé à quel point le monde sont stupides, le part des criminels, là. Moi, je suis arrivé en cours, j'avais 17 ans, mais j'avais un habit. Puis j'avais de l'air d'un gars qui s'en allait à l'université. Puis là, j'étais avec des hosties de losers, avec des logos de potes sur le T-shirt ou des T-shirts de Metallica. Puis j'étais comme, « Chris, ben, habille-toi comme un homme d'affaires pour une journée. » Et là, mon ami en question, lui, sa mère, il avait dit, « T'es correct, le juge, il a dit que tout est beau. » Puis ça va être, tu sais, il avait dit à mon ami, ça va être ton ami qui va être dans la marde, ça allait être moi qui allait être dans la marde. Fait que lui, il est arrivé en t-shirt, c'est une calotte, et vu qu'on s'appelait les deux Mike, et lui, son nom de famille, c'était Sponza, fait qu'il passait avant moi. Lui, quand il passait, il a pogné 400 heures de travaux communautaires, qui était le maximum pour ça. Moi, j'avais pogné 40 heures, qui était le minimum. Vu que pour les deux, même c'était même pas les deux le même crime, vu que lui, il avait pas frappé le gars, moi, je le frappais avec un bâton. Fait que moi, j'ai frappé le gars avec un bâton, puis j'ai pogné 40 heures. Lui, il m'a juste regardé, puis il a pogné 400 heures.
Voyons donc.
Ouais.
Chris, Mike, t'as passé comme le tiers de ta vie en cours. Yeah. Tout le temps!
Ouais. Beaucoup d'expertise de procès.
Puis le néo-nazi en question, c'est un mineur. Fait que j'ai tout le temps blessé des enfants avant d'aller en cours. Mais ça, j'étais content pour ça. C'était niaiseux. Mais en cours, tu sais, même si c'est illégal, battre un skin, tu sais, j'étais...
C'est légal?
Ben, tu sais, battre n'importe qui, c'est illégal, mais j'étais...
Ah, j'ai compris légal.
Non. Mais j'étais...
Non.
J'étais content de tu sais, je le faisais pour une raison que moi, je trouvais noble.
C'est le fun de gagner sur le nazisme, hein?
Ouais. Vois-tu, moi, ça aurait pas pris 42 personnes pour tuer Hitler. Moi, je l'aurais attendu, puis j'aurais fait, je vole tes souliers, tu sais,
Oh, maintenant, j'ai juste envie de te voir en 1940.
Mais moi, ça me fait tout le temps rire, le monde. Tu sais, moi, je dis que je l'aurais tué. Tout le monde qui font, moi, là, être vivre dans ce temps-là, je l'aurais tué. Puis t'es comme, t'as zéro training militaire. Lui, tu sais, tu serais rentré dans le pays.
C'est facile à dire.
Il t'aurait tué dans les deux premières
42
minutes,
tentatives d'assassinat. Tout le monde était vraiment qualifié. Là.
Ah ouais.
Non.
La seule manière tu pourrais tuer Hitler, ça serait le bébé. Hitler, mais tu sais, tu veux pas tuer un bébé, tu sais.
Ben, mettons, genre, t'as le pouvoir de voyager dans le temps, puis première affaire, tuer un bébé.
Mais t'sais, va visiter des pyramides, là.
Moi, j'aurais tué le bébé, sachant qu'il aurait été...
Sais-tu qu'est-ce qui serait hot, par exemple, c'est que tu tues le bébé, puis après, quelqu'un te fasse, c'était une joke, c'était même pas lui.
C'était pas lui.
On t'a eu, aussi, il y a une caméra là.
Des gags pourris.
On n'est pas. Ouais, on n'est pas en 1940 pour vrai. Non, ouais, lui, bébé, c'était 1910, genre, ou je sais pas.
Ouais, non, c'était tôt. Il y avait pas beaucoup d'émissions de caméras cachées à l'époque. Il a failli se faire tuer pendant la Première Guerre mondiale aussi. Il avait adopté un chien qu'il avait trouvé dans les tranchées. Puis à un moment donné, il était là avec ses amis allemands dans un bunker. Puis il était en train d'essayer de dresser le chien. Puis le chien écoutait pas. Fait qu'à un moment donné, il s'est enfui. Puis ben, Hitler était en tabarnak. Quelle surprise. Et il est sorti du bunker pour aller battre le chien. Puis il y a un obus qui est tombé sur le bunker exactement à ce moment-là qui a tué tout le monde à l'intérieur sauf Hitler parce qu'il est allé battre son chien.
Et ça, c'est la preuve que Dieu existe. Ça, qu'est-ce que c'est trash, ça, que tu vas battre un chien?
Voyons.
Mais non, Hitler, il était pas le fun. Vous n'allez pas passer du temps avec lui, là.
Il y avait
la pire personne.
Il y avait le cul plein de pâtes.
As-tu une idée de tout le glucide qui pouvait se payer en tant que fureur?
Sûrement qu'il avait le cul plein de pâtes vu qu'il était végétarien.
Oui. Il passait du temps avec Mussolini.
Ouais, c'est ça.
Il était végétarien.
Il avait son contact italien.
Il était toujours en Italie en train de manger des pâtes.
Il était végétarien.
Il voulait pas tuer d'animaux. Mais il voulait les battre violemment. Mais il y avait une affaire de... Tu sais, souvent sur Internet, il y a des quiz. Quelle personne était végétarien, telle affaire. Puis Hitler, il y avait comme 3-4 qualités, genre, qu'on voit comme des qualités, genre, végétarien.
Il fumait pas, il buvait pas.
Il fumait pas, il buvait pas, il prenait pas de café. Fait, il mangeait santé, il faisait du sport, tu fais lui, et là, la réponse, c'est ben, c'est
ça. Tu sais que c'est à cause des nazis qu'ils ont des ratons laveurs en Allemagne aujourd'hui? C'est vrai? Non, les... Hermann Göring, le numéro 2 du... Est-ce que j'en connais sur l'Allemagne nazie? Ça n'a aucun sens. Hermann Göring, le deuxième numéro 2 du Reich.
Celui de la machine qui fait le café Keurig?
Keurig, non. Okay, c'est pas le même. Okay, on vend plus ces machines à café. Göring, lui, il voulait introduire, il trouvait ça cute, des ratons laveurs. Fait qu'il les a introduits dans des eaux. Les...
Il trouvait ça cute?
Oui.
Christ de malade mental.
C'est vraiment... Hey, c'est cute.
Ben, tu sais, déjà, ils veulent détruire une race, mais ils veulent rentrer une espèce dans le pays.
Ah, ils aiment beaucoup les ratons laveurs.
On tue tous les Juifs, on les remplace par des ratons laveurs.
Le nazisme. Ouais. Ils sont sauvés, puis ils sont reproduits, puis là, ils ont des gros problèmes de ratons laveurs en Allemagne depuis les années 40. Merci, le nazisme.
Ben oui. C'était...
Mais pourquoi qu'ils voulaient dans le pays? Parce que vraiment, ils
trouvaient... Göring les trouvait cute. Ils les appelaient les Waschbären, les ours laveurs qui, en allemand.
Puis... Pourquoi qu'il en a pas juste acheté un puis il l'a mis dans une cage, dans son sous-sol?
Ouais, il en voulait un.
C'est des nazis. C'est... Il va essayer de comprendre leur façon de fonctionner. Là. Il aimait certains animaux nuisibles.
C'est ça, puis ils ont pas somme, tu sais.
Ah. Ça, c'est vicieux.
C'est lait, un opossum. C'est lait, un opossum.
Le genre d'animal que tu trouves dans une armoire, quand tu es parti la fin de semaine, il y a une petite opossum. Tu veux faire le gars qui attrape un opossum, il te tient par la queue comme être un gros opossum. J'ai vécu des mésaventures d'opossum. Dans...
mais au moins, on s'est sorti du sujet de la, c'est de la guerre.
Nazie, ouais.
On parle d'opossum.
Merci, Maud, de bien rétabli.
J'ai jamais vu un opossum live.
Ça ressemble à...
Une petite gros crise de rat.
Un gros crise de rat. Poilu, un peu plus poilu.
Okay.
Tout nu, tout nu quelque part, mais poilu ailleurs.
Tout nu quelque part.
Ouais. Mais pas égal. C'est ça. Il est pas tout égal.
Tout nu quelque part, mais poilu ailleurs. Ça sonne comme c'est un monon cochon. Toi, t'as-tu déjà ouvert un armoire pis il y avait un opossum? C'est sûr que non. Quelqu'un qui a un chauffeur pour l'amener à l'école a pas un problème d'opossum. Il y a pas...
J'ai écouté une émission à un moment donné aux États-Unis pis c'est genre les chasseurs de vermine.
Ouais.
Pis, okay. À un moment donné, il y avait un épisode qui est concentré sur « Il y a un très gros opossum dans l'armoire. »
Je l'ai vu. Où je l'ai vu.
C'est quelle émission, ça?
Un Canal D, une affaire de...
Ouais, genre, la vermine contre-attaque.
Il y a un show de chasseurs de vermine.
Ouais.
Tabarnak, on est rendu là.
Ça m'a filmé du monde qui ont des infestations de punaises de lit, pis des rats, pis des faucheuses.
Y a-tu des opossums dans Schlaga?
Ouais.
Ah oui, ça, y en a.
Des punaises de lit, ça doit être rare, c'est dans l'armoire, par exemple.
Ouais, c'est plus d'un lit.
Ouais. Ça, c'est même pas, tu sais, souvent le monde, tu sais, des punaises de lit, ça n'a pas rapport avec le riche ou pauvre, tu sais.
Non, c'est même pas hygiène, c'est salubrité de l'immeuble.
Même chose pour les coquerelles, en fait. C'est l'humidité, la plupart du temps, il y a des grands hôtels qui ont des gros problèmes de
vermine. Ça, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool.
Des coquerelles? Non.
Non, des puces de lit non plus.
Non plus, non. Cool. J'ai failli, je pense que j'en ai pogné, en fait, à un moment donné, il y a quelques années. Je commençais à avoir des spots qui piquaient
après avoir dormi, c'est généralement un bon indicateur de punaise de lit. Puis, en fait, j'en ai attrapé une à un moment donné, puis j'étais vraiment dans le déni, là. J'en avais attrapé une, j'étais comme, bon, on va aller voir sur Internet si c'est véritablement une punaise de lit, histoire de, oh, c'est calissement une punaise de lit. Fait que j'ai fait venir un exterminateur, puis on m'avait vraiment fait peur avec les punaises de lit. On m'avait vraiment dit, là, si t'en as, va falloir que tu brûles ton linge, tu brûles les draps,
ça j'ai fait, moi.
Moi, j'ai fait venir un exterminateur. C'est un dude borderline unilingue hispanophone.
Ah, c'est souvent
qui
ça.
Qui est débarqué, qui sont psh, 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 comme ok, oui, vous allez juste asperger trois places. Dans, comme ah ouais, non, ok. Si vous avez l'air de savoir ce que vous faites, monsieur l'exterminateur de punaises de lit. Puis il a aspergé à trois places, il est parti. J'ai jamais eu de problème de punaises de lit. Donc voilà, les hispanophones s'occupent bien de la vermine.
T'en as-tu déjà eu des punaises?
Non, j'en ai jamais eu. Mais moi, j'ai un condo en Floride. Puis genre cinq fois par année, il y a un monsieur qui vient avec un chien. Que le chien, c'est comme des chiens qui sniffent.
Reniffent.
Ouais. Mais qui sentent juste les punaises de lit.
Hein?
Puis là, ils se promènent. Puis là, un moment donné, j'ai fait ça. Puis il m'a donné un petit sac, genre un Ziploc avec des punaises de lit mortes. Puis il a dit, cache ça n'importe où dans la maison. Le chien va le trouver. Puis il l'a trouvé.
Y avait-tu des punaises de lit, finalement?
Il y avait, non, ben, dans
pas
le sac, oui.
Le sac.
Mais non, j'avais pas de punaises de lit. Moi, j'avais peur, vu que... Tu sais, je sais pas c'est quoi qui cause ça exactement, les punaises
c'est
de lit.
Des trous dans l'immeuble, ça passe. Ou ça peut être... Tu peux pogner ça dans le métro, ça, tu touches à un vêtement de quelqu'un qui en a.
Ou j'en ai déjà eu une fois, là. Ça accroche à ton linge, puis après ça, c'est
l'enfer.
Comme la
vie.
Mais tu sais, comme moi, quand je vais à l'hôtel, je mets jamais mes valises sur n'importe quel tissu, tu sais. Je le mets juste sur le bois. Puis à un moment donné, je couchais à l'hôtel, puis je me rappelle, je m'étais couché, puis j'avais vu une punaise de lit... J'en sautais du lit, ou en tout cas, je sais pas, je l'ai vu sauter, mais je l'ai vu comme à côté de ma face, puis là, je suis comme sorti du lit, j'ai paniqué, à ce type-là, ouais. Je me frottais, puis je suis parti, puis j'ai été chanceux. Je pense pas, je n'ai. Moi, en plus, je suis le genre de personne, vois-tu, là, on parle de punaises de lit, ça me pique partout.
Oui.
Moi, je suis bien...
Tu es bien parano.
Ouais. Moi, aussitôt que je regarde des shows, je sais pas si toi, t'es même... Toi, tu peux pas, vu que c'est une affaire de pénis, mais moi, aussitôt que...
J'ai hâte de voir où ça s'en va.
Aussitôt que quelqu'un me parle de quelque chose qui est arrivé à leur pénis, mon pénis, est-ce veut devenir un vagin?
Moi, c'est les yeux pis les ongles. Du monde qui se coupe des yeux pis qui ont, genre, qui se mettent le doigt sur un clou. Comme dans The Ring, là, quand la fille met un doigt sur un clou pis ça passe au travers pis son ongle décolle. Non.
Mais moi, tu vois, moi, les histoires de pénis qui font mal, c'est comme un ballon de foot dans la fourche. Je pense que j'ai une compassion pour les hommes. Ouais.
C'est un peu un très gros clitoris aussi.
Oui, ça a l'air de faire mal comme des crampes, tu sais, ça a l'air de faire crissement mal.
C'est à cause de tes frères. Toi, t'étais-tu quand t'étais petite?
Moi, c'est là que je visais.
OK. Vu que t'as beaucoup de compassion.
Ben, non, mais je sais que c'est là que ça fait mal.
Moi, j'étais vicieuse de même.
C'est là que ça fait mal. C'est là que tu fais ça, puis il arrête.
T'es as-tu déjà pogné dans les couilles?
Oui.
Chris, ils doivent avoir arrêté de t'écœurer.
Ça a diminué beaucoup, oui. J'ai vu leurs points faibles, puis moi, je n'avais pas. Ils ont fait ça, puis j'ai fait « coussin! »
Ah! Ils t'ont-tu kické dans l'une?
Oui.
T'as
déjà arrivé une fois. Tu es
violent.
Ça brasse chez les Landry.
Ça brasse chez les Landry. Non, mais c'est ça, des frères et sœurs. Je suis pas tout seul, là. Il me semble que c'est violent, là. C'est là que t'apprends à te défendre.
T'as-tu kické les deux frères ou juste un, pis t'as dit,
en même temps,
genre, il est à genoux, pis t'as fait, passe le mot.
Exact. Hein?
Hitler, il avait le cul plein de couilles, toi, t'as...
Le cul plein de couilles? Le cul plein de couilles. Une autre mésaventure hitlérienne.
Hitler aussi, était gay?
Le cul plein de couilles,
ça c'est être gay là.
Une étrange pratique homosexuelle.
Mais ben, les couilles rentrent pas dans le cul.
Non, mais c'est se faire mettre dans les fesses parce que les couilles touchent.
Oh, ouais.
Mais c'est-tu les couilles de quelqu'un rattaché genre à un scrotum ou c'est un gars qui arrive avec un pot maçon de couilles?
Ben le cul plein de couilles.
Comme des boules chinoises médiévales.
Couilles.
T'as comme des couilles mais.
Jamais des couilles.
Le cul plein de couilles.
Mais une chance, ces homosexuels-là n'existent pas.
Mais ouais, c'est... Ok, je pauvre frère. Y a-tu des enfants?
Non, mes frères ont pas encore d'enfants, moi.
Tu penses-tu que lui va être capable, vu que...
Hey, c'est arrivé une fois, là, pis il venait de me flipper l'ongle.
Ah!
Hein, c'est pas cool, là.
Colin, méritait ça.
Ça fait mal.
Tu l'as-tu kické de toutes tes forces?
Oui, je me rappelle une fois qu'il arrêtait pas de m'écœurer, j'ai donné un petit coup de pied.
OK.
Pas toutes mes forces, non, juste assez pour faire... Je sais que c'est sensible, là.
Tu sais...
Ça a tellement l'air de faire mal, là.
Ouais, tu sais, le numéro... Phil Bond pis Dumpak aux Oliviers, il y a une couple d'années.
Okay.
Qui se kickait. Il y en a un qui kickait l'autre d'un coup.
Oh.
Pis là, j'avais fait, y avait-tu un jockstrap? Pis il a dit, non, c'est juste, tu t'assures que le pied dépasse pis il kick le cul. Pis j'étais comme, ah, c'est-tu que je t'aurais pas fait confiance?
Ça a vraiment l'air d'un calcul qui peut mal tourner.
Calcul de...
Question de visu.
Vu comme s'il a contourné, comme si, mettons, les couilles sont là, puis il a fait comme... Tu sais, mais en kickant, moi, ouais, je ferais pas confiance. Mais
statistiquement, c'est vraiment pas une bonne idée, non.
Non.
Faut pas faire ça.
Puis ça se voit quand tu fais semblant d'avoir mal aussi.
Mais eux autres, ça avait de l'air vrai, mais je pense... Tu sais, veux pas, quand tu kicks un cul, mais de devant... Tu rentres dans qu'est-ce qu'il y a dans les jambes, là, tu sais.
C'est vrai, inévitablement.
Une chance qu'on s'est éloigné du nazisme, la parole.
Non, mais pensez-vous, tu sais, j'ai eu un coup d'un couille? Un coup de
jamais
quelque chose?
Coup de couille. Jamais eu de coup de couille. Coup de couille d'un couille. Les deux.
Un coup de couille dans les couilles, là, le pendule de Foucault, là.
C'est jamais arrivé, ça.
Le psychiatre, comme on l'appelle.
Ça fait-tu autant mal que l'accouchement?
J'ai jamais accouché non plus.
Non?
Je vais tellement pas m'engager sur cette porte du centre.
C'est sûr que non, vu qu'un coup d'un couille, ça... Mais moi, je pense coup d'un couille, ça... Si, mettons, à chaque fois que la femme a une contraction, t'as un coup d'un couille, ça doit être comparable. Mais coup d'un couille, tu fais comme... Ah! Pis là, t'en parles à tout le monde pendant 4 ans, là, tu sais.
Ouais.
Tandis qu'un accouchement, ça fait mal longtemps. Je pense que c'est ça la différence.
Ouais.
Moi, c'est sûr, c'est pire, un accouchement.
C'est pire qu'accoucher, ça?
Ouais.
Moi, je suis pas certain.
Ah, ouais.
L'accouchement, c'est, combien de temps il passe? Ça peut aller. Il y a des accouchements genre de 48 heures. Il y a des femmes qui ont mal pendant 2 jours.
Ouais, c'est ça. Fait qu'un coup d'un couille, c'est 4 secondes.
Oui, mais bon, 4 secondes puis possiblement des séquelles.
C'est une douleur tellement aiguë, jusqu'à la fin de tes jours, mais,
ben,
ouais.
Ça fait mal, là, mais je veux pas
tu t'en remets?
Que c'est, oui, éventuellement, tu vas t'en remettre. Un accouchement, tu t'en remettras jamais, là. C'est, t'es obligé de dealer avec tes erreurs parce que la fin de tes jours.
Mais non, t'en remettras jamais.
Terrifiant, tout ça. Y a pas d'enfant qui sort de ma bouche après qu'on m'ait kické dans les couilles. Mais ça, je suis obligé de l'élever.
OK, bon point.
Ouais. Toi, tu veux-tu des enfants?
Je sais pas. Je sais pas. On verra.
Toi, tu veux-tu
peut-être en adopter.
Non.
Non.
Toi, tu veux que ça finisse avec toi?
Moi, c'est... T'en veux-tu un, Mike?
Non. T'en as-tu un? Ça sonnait très...
T'en veux-tu un?
Ça sonnait weird comme marché
Excuse-moi.
Noir un peu.
T'en veux-tu un?
J'ai des
bonnes plugs.
Non, je veux pas d'enfant.
Toi, est-ce que tu serais genre le dernier Ward?
Non, mon frère a eu des enfants.
Okay,
mais je suis le dernier ward au Québec.
Okay.
Dernier ward québécois. À moins que je meurs avant mon père, ça va être lui le dernier. Mais c'est ça.
Oh, je le souhaite pas.
Non, faudrait pas que ce soit ça.
Ah, on souhaite tout que mon père meure avant.
Cheers.
On a marché dans ce piège-là, hein.
On vient de souhaiter la mort de ton père.
Pas grave.
Non, je veux pas d'enfant. J'ai eu comme cette réflexion-là. Je suis occupé, je suis fatigué, puis là, il y a toute cette idée-là de rentrer à la maison, puis là, faut que tu nourrisses, puis tu changes, puis t'amènes à l'école, quelque chose qui s'encalisse.
Ta blonde, elle veut-tu un enfant?
Non, absolument pas. Tu es malade, toi.
Non, elle a assez de 3 chums.
Et si on ne s'engageait pas sur cette pente,
OK, on n'ira pas là.
Non, Chris, il faut s'engager sur ta part.
Qu'est-ce que
là?
Tu veux savoir, ça, Mike?
Si elle a le cul plein de couilles.
Oh
Je suis dans ce qu'on appelle une relation polyamoureuse. Ma copine a deux copains.
OK.
Voilà, c'est tout.
Puis toi, t'as combien de blancs?
Juste une, puis c'est bien suffisant.
OK. Puis toi, t'es bien là-dedans?
Super, oui.
Est-ce que vous vivez les trois ensemble?
Non, absolument pas. Tout le monde habite chez eux, puis c'est la perfection.
OK.
On veut pas d'enfants, on n'aménagera pas ensemble, c'est... Relax demain. Puis moi, j'ai besoin de mon espace à la maison.
OK.
J'ai besoin de respirer, fumer du pot en écoutant des films sur les nazis, puis de faire ça tout seul, si possible.
Fait que pour toi, t'es comme, bon, si lui, il s'en occupe, là. T'sais, est-ce que vous faites, tu sais, comme des maisons...
C'est pas un tag team de lutte, là,
que...
mais...
Non, mais genre, est-ce que vous avez déjà fait un trip à trois?
Non, okay. Non.
Pis, est-ce qu'elle, elle a son chum, genre, OK, quand je vais, mettons, t'sais, telle sorte de sortie, c'est avec lui, telle... T'sais...
C'est... Deux relations séparées et distinctes qui s'adonnent à être avec la même fille. Quand t'es avec un, t'es avec un, puis on se pose pas de questions. Quand t'es avec l'autre, puis on se pose pas de questions. Puis je sais qu'elle voit, puis on se voit deux, trois fois par semaine. Puis c'est tout ce dont j'ai besoin. Puis c'est facile. C'est facile. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus sur Urbania. C'est le temps d'aller jeter un coup d'œil. C'est l'entièreté de mon raisonnement là-dessus. Puis ça.
Puis est-ce que vous êtes déjà, mettons, quand tu vas en voyage?
Toutes ces fois où je pars en voyage.
T'es jamais allé en voyage?
Oui, quand j'étais jeune. Mais okay. Mes parents avaient beaucoup d'argent et ils m'ont amené à des endroits. Mais là, je voyage plus parce que j'ai peur. Je suis pas responsable. Je suis pas capable de me débrouiller à l'extérieur du Québec. Je suis pas responsable. Je suis pas capable de booker un hôtel tout seul. Là, puis je...
Arnaque! Non, c'est pas compliqué.
J'ai peur de l'extérieur. J'ai peur de sortir. J'ai peur du monde extérieur. Moi, j'étais un ermite enfermé chez moi.
Mais là où je fais documentaire de nazis.
C'est ça. C'est ça.
Peut-être un de mes multiples problèmes. Non, j'ai peur de l'extérieur. Moi, ça me prend quelqu'un. Pour vrai, si je m'en vais en voyage, ça me prend quelqu'un qui va tout avoir planifié, puis juste avoir à suivre comme un gros crise d'épais, puis prendre des photos, puis retourner avec, puis la type.
OK.
Ouais. Facile de même. Je suis pas responsable, puis ça me fait chier d'organiser ce genre d'affaires-là. Puis c'est drôle, j'étais en...
Mais c'est tellement simple, pasteur, avec Internet.
Mais ça dépend où tu vas. Tu sais, moi, j'aimerais avant de mourir, au Japon, voir les sakuras, les cerisiers en fleurs, là, la neige de pétales roses à travers le Japon, puis il n'y a pas un esticha qui parle anglais au Japon. Ça fait que là, il faut soit que je prenne des cours de japonais pendant plusieurs années pour avoir ne serait-ce qu'une base en japonais, mais même là, tu débarques là-bas, eux autres, ils parlent leur espèce de slang japonais.
Engage-toi un chauffeur interprète.
Ça, c'est une esti bonne idée, ce mot.
Ben ouais, non, mais t'es-tu encore en bonne relation avec tes parents?
Oui, très.
Tu sais, fais-là un filet cheap de quelque chose, puis là, ils vont te payer un interprète.
Non, j'ai pas ce genre de relation-là avec mes parents, en fait. Mes parents sont bien couveux, je te dirais. J'ai des parents, ma mère est bien mère poule, puis ils sont bien protecteurs. Pis je te dirais que j'ai 30 ans, je suis à un stade de ma vie où Christ, j'ai de la calvitie, puis des fois ma mère vient faire le ménage chez nous. Ça me rend, je suis pas à l'aise avec ça. Fait que j'essaie de demander le moins possible des affaires à mes parents, en fait. C'est
okay.
Voilà, je suis un adulte et je vais vivre avec mon terrible absence de salaire parce que je suis Maurice Lerelève.
Qu'est-ce que tu vas faire, mettons, par exemple, si tu te fais booker un festival, on va dire en Suisse, en Belgique, en France? Tu vas-tu y aller ou tu vas faire « Ah! »
Je suis mieux d'avoir un gérant qui va être ma mère puis qui va faire tout ce voyage-là avec moi puis booker des sorties. Sinon, non, je sors pas. J'ai peur. J'ai peur du monde extérieur.
OK. Toi, t'as-tu peur de voyager?
Non, au contraire, j'aimerais ça, voyager plus. Si j'avais plus les moyens, j'irais plus. Puis je suis du genre à pas rien prévoir pour arriver pack sac et faire « Ah! Oh! » C'est... Il y a des maladies. Ah!
T'as jamais pris l'avion, Maud, hein?
Oui, j'ai pris l'avion pour aller aux States souvent, là. Mais j'ai jamais sorti du continent.
T'as jamais vu la mer?
J'ai jamais vu l'océan. C'est presque arrivé pour on a pas eu un accident. Avant. C'est pas cool.
Ah oui, c'est où
que
t'allais?
J'ai pas le cul plein de nouilles.
C'est où que t'allais?
J'ai fait le Tennessee, j'ai fait Nashville, j'ai fait me se promener là. J'allais au festival Bonnaroo.
Ok. Toi,
tu connais, il y a de l'humour là-bas.
Ouais, ouais.
Il y a du fun. J'allais à New York avec Charles.
C'est vrai, j'aurais fait ça.
Ouais. Puis cet été, peut-être un road trip avec mon frère, puis je vais essayer de surfer.
OK. Ouais. Fait que là, j'imagine que tu vas trouver l'océan, parce que sinon...
Oui. Sur quelle côte?
Fait qu'au test.
Droite. Tu sais, c'est drôle. Tu connais le nom du gars qui a rentré les ratons laveurs. Mais quand quelqu'un dit est, il faut que tu fasses, ok, attends, tu sais. Ouais.
C'est ça, je dis, je suis bien sélectif sur ce que je décide de retenir. Malheureusement, ça, le problème.
Y a-tu assez de vagues côté est pour surfer?
Je sais pas.
Parce
que. Oui. Sûrement.
As-tu déjà fait du surf?
Non, mais j'aimerais ça. J'aime les sports de planche.
Ça va être une belle découverte.
J'aime ça risquer de tomber.
Oui?
Non, mais c'est excitant. C'est oh, okay. Le vertige. Il y en a qui aiment ça, les hauteurs.
Il n'y a pas de hauteur, t'es au niveau de la mer, Maud.
Non, mais tu risques de tomber, c'est de l'équilibre, une planche, Charles.
C'est pas des hauteurs, c'est tomber de...
Non, mais ça, je dis, c'est le thrill. Ouais. Ouais. C'est plus ça, le thrill. J'aime le thrill. J'aime les dangers.
J'aime ça faire du... C'est ça qui t'a amené à faire de la scène?
Oui, oui. C'est... oui.
De faire... Christ, tout le monde a peur de ça.
Tout le monde a peur. Mais j'ai de moins en moins peur, mais tu sais, on se rappelle notre première fois. Tu te rappelles-tu ça première fois, Mike?
Oui.
T'as fait du stand-up, oui. La chienne que t'avais. T'avais-tu la chienne?
J'avais pas tant la chienne, vu que j'avais plein d'amis, puis je leur avais fait à croire que j'avais déjà fait de l'humour. Fait que là, je faisais semblant d'être confiant.
C'était okay. Quand ton premier stand-up?
Oui. En 93. Holy shit, ça fait longtemps, n'est-ce pas?
T'avais-tu déjà les cheveux bleus?
Non, j'ai eu les cheveux bleus en 96.
OK.
Ouais, 96.
Est-ce que c'était avant ou après que l'école de l'humour...
C'était avant l'école d'humour. Okay. Les cheveux bleus après, puis le stand-up. Moi, j'ai fait de l'humour 2 ans avant l'école.
Beaucoup?
Pas tant que ça, mais mettons, j'avais monté sur scène peut-être 50 fois, peut-être 100 fois. Fait quand même pas mal.
C'est beaucoup.
Mais j'avais fait l'école pour avoir les prêts et bourses. Vu que j'avais pu...
D'argent.
Tu sais, j'avais pas... Je savais que j'étais comme à ça de vivre de l'humour, mais je voulais pas me trouver une job, je voulais pas quitter de l'argent de mes parents. Fait que j'ai fait, c'était l'école. J'haïssais tout ce que l'école représentait. Je trouve, tu sais, il y a de quoi d'absurde. L'humour, ça s'enseigne pas. Ça s'apprend, mais ça s'enseigne pas. Mais pour les pré-bourses, je l'ai fait.
Je te dirais que l'école, pour vrai, là, tu sors de là avec ce que tu y as amené. Tu sais, il y a beaucoup de... Si tu t'en vas là, il y a beaucoup de gens pour qui, genre, je pense que l'école de l'humour, c'est une finalité, qui vont faire comme, moi, je veux rentrer, c'est des jeunes humoristes, qui vont faire, moi, je veux en rentrer à l'école, là, hey, yeah, je suis rentré à l'école, je suis officiellement... Puis il y a beaucoup une mentalité très, chez beaucoup de gens, très arrêtée de, OK, la finalité, c'est l'école, à partir de ce moment-là, ils vont partir ta carrière, ils vont te
c'est
te
comme un passage puis, obligé,
sweet fuck out, ça veut rien dire. Si tu t'en vas là, teste des affaires, fais des trucs, prends le temps de te casser la gueule, joue pas dans ta zone de confort parce que sinon ça mène à rien parce que ils vont pas te pousser en sortant. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est d'apprendre, d'en apprendre sur toi-même, d'en apprendre sur qui t'es en tant qu'artiste. Tu t'en vas là en te disant je sais exactement ce que je vais faire, mais ça donne rien. C'est ne pas apprendre ce qui est l'objectif d'une école.
Ouais.
Non, je sais pas. Moi, sérieusement, l'école, j'aimais ça. Je me suis cassé la gueule. J'ai essayé des sketchs. J'ai essayé des estis numéros que je ne ferais jamais dans ma vie. J'ai rencontré des gens, mon Dieu, avec qui je travaille, qui sont devenus des amis, qui sont devenus du monde que je fréquente aujourd'hui.
Tu dis pas ça parce que t'as peur que l'école voit le podcast?
Non, Pierre-Bruno Rivard, c'est déjà suffisamment cassé la gueule à ma place.
Mais moi, vois-tu, pour l'école, pour les amis, ça, c'est la seule chose qui est sortie.
Ne serait-ce que pour ça.
Moi, Michel, mon gérant, c'est le frère à Daniel qui a fait l'école avec moi. Perids, qu'on a fait le gros show, on a fait l'école ensemble. Mais c'est tout du monde que j'aurais rencontré.
Éventuellement.
Tu sais.
C'est vrai.
Tu sais, moi, c'est ça. Moi, je pense que t'as bien fait de pas faire l'école.
En fait, j'avais pas les moyens.
OK.
Ça aurait pu, mais...
Fait que
un gin tonic avec du cocombe, s'il te plaît.
Moi, je prendrais un Calo One.
Dans le micro?
J'ai pas du cocombe, hein. Je commande dans le micro.
Yes, ouais,
que tout le monde sache. Non, mais c'est pas juste une question de moyens. J'aurais pu me débrouiller comme tout le monde. Tout le monde finit endetté à la fin de l'école. Mais ça tombait que, je pense, le jour de l'audition, j'avais un show. Puis j'avais comme beaucoup de shows devant moi. J'avais harcelé pour du booking, puis je me suis mis à avoir des shows. Fait que ça a donné... J'ai juste pas fait l'audition, finalement.
Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ça va faire 3 ans en tout que j'ai commencé, mais disons 2 ans que ça commence à rouler.
Puis combien de shows que t'as fait?
Je sais pas, ça doit être... C'est beaucoup la dernière année.
C'était quasiment chaque soir de la semaine.
OK. Genre 300 shows dans l'année?
Peut-être ça.
OK.
Oui, j'aurais dit. Faudrait que je compte. Je regarde dans le calendrier, mais j'étais bien occupé dans
la dernière année. Au début, je comptais tout le temps. Moi, il y avait un gars, puis je l'ai compté mille fois ici, mais qui m'avait dit, puis ça m'avait traumatisé, puis je le répète tout le temps parce que pour moi, c'était vrai. Il avait dit, tu sais, quand tu commences, c'était comme une arrogance du débutant ou de la débutante. Puis moi, ça faisait 20 fois que je montais sur scène. J'étais comme, moi, j'étais un humoriste. Puis là, il avait dit, t'es pas un humoriste. Il a dit, les 500 premiers shows comptent pas. C'est juste pour trouver ta voix, quitter sur scène. Puis là, j'étais comme, ça m'avait détruit. Mais là, moi, je faisais des shows tout le temps juste pour me rendre à 500. Puis j'écrivais, je prenais des notes. OK, je suis rendu à tel
point. Tu as
dit ça à une couple de personnes, parce que ça, c'est quelque chose qui se passe dans le milieu.
Je pensais que c'était de toi que ça sortait.
Mais moi, là, qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois sur Facebook, une fille, elle a écrit, « Bon, ça, je suis rendu à... » mettons, à mon show 300. Fait que dans 200 shows, je vais être une vraie humoriste, selon Mike Ward. Puis là, j'ai senti comme une rage qui était comme en crise que... Mais tu sais, c'est 500, c'est différent pour tout le monde. Là,
ben oui.
Martin Mapp, moi, je l'ai vu, son premier show, puis il a pas changé tant que ça.
Ben, je pense qu'il y a des shows qui rentrent plus dans le corps que d'autres.
Ben, t'apprends en plantant.
C'est important.
T'apprends en plantant. Un show qui va bien, t'apprends fuck up.
Ouais.
Mais un show qui va mal, tu fais, OK, c'était-tu moi, c'était-tu eux autres? Puis quand t'es assez humble pour dire, OK, c'était moi, c'est quoi moi j'aurais pu
faire?
Qu'est-ce
que j'ai fait comme erreur?
Puis,
c'est important de se remettre en question.
Ouais.
C'est crissement formateur.
C'est le métier que t'arrêtes jamais d'apprendre, je pense.
T'es toujours,
jamais.
Oui, parce qu'à force de te planter, t'es toujours en train de genre, refocuser, recentraliser ton matériel, faire OK, d'accord, ça je peux pas leur faire passer ça c'est trop loin, ça c'est, tu sais, moi quand j'ai commencé là, j'étais 50-50 en sortant de l'école. Okay. Là, 50% des fois ça allait crissement bien, 50% des fois je faisais du stand-up en mandarin, c'était terrifiant. Puis à un moment donné, tu finis par faire comme OK, d'accord, c'est beau, ça fonctionne juste à Montréal, ça je peux faire des affaires comme ça à Montréal, ça je l'ai essayé 2-3 fois en région, non, OK, c'est beau, ils sont pas assez ouverts, je vais leur donner tel autre type de numéro. Là, tu finis par restructurer tes numéros de façon à ce que ce soit le plus large public possible. Ça, c'est un apprentissage qui vient pas si tu te plantes pas, si tu fais pas des erreurs.
Ouais.
Ça te permet justement, après ça, d'essayer de sortir de ta zone de confort en t'encadrant de tes connaissances. Alright, maintenant, je sais grosso modo ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. J'ai un corridor mince d'essai. Je peux essayer des affaires. Je peux essayer un truc qui va me faire plaisir puis qui va sortir de la boîte puis qui va être intéressant avec les paramètres que j'ai appris en plantant.
Toi, mettons, quand tu testes quelque chose, que tu dis, OK, ça, c'est pas dans ma zone de confort, c'est où que tu vas?
Moi, je rate toutes mes affaires, à Montréal, préalablement. Puis, quand
toujours la même place ou?
Le circuit montréalais, là, le tour des bars, puis je check la statistique du numéro, là. Si ça rentre crissement bien à Montréal, j'y donne un ou deux essais à l'extérieur, voir si les gens ont j'aime pas ça dire ça, mais le degré d'humour de comprendre ça, plusieurs paires de guillemets, parce que les gens ont pas toute la même compréhension du stand-up, dépendamment où t'es. Puis à partir de ce moment-là, je donne 3 essais à l'extérieur. Okay. 3 strikes, je me suis planté les 3 fois, je refais plus jamais ça à l'extérieur, puis je passe un autre numéro.
J'ai remarqué, par exemple, à l'époque, toi, t'as commencé en quelle année?
Moi, je suis finissé en 2010, je suis rentré donc en 2007, j'ai joué peut-être 2 ans avant, donc...
mettons 2005.
2005-2006.
Parce que j'ai remarqué, tu sais, une grosse différence depuis, mettons, 2005 puis aujourd'hui. J'ai l'impression que en 2005, c'est encore dans les années qu'il y avait une grande différence entre, mettons, Montréal, la région et Québec. Puis là, j'ai l'impression avec Internet, qu'avec YouTube...
c'est vrai.
Il y a moins de différence.
Ça se démocratise, mais encore là, des fois, il y a des places où t'es comme... Je sais pas, il y a des places où je suis un peu surpris. Je suis comme, OK, non, c'est beau, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que c'était parce que j'étais à l'extérieur de Montréal à ce moment-là. Puis c'est pas grandiose que les gens de région sont des épais. C'est une question de culture humoristique, c'est une question de qu'est-ce que tu consommes, c'est une question de c'est quoi, qu'est-ce que tu as appris, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu as emmagasiné comme baggage qui va te permettre de comprendre le degré d'humour qui t'est amené. C'est là que ça devient complexe à l'extérieur.
Puis c'est quoi la place ça marche le moins pour toi?
Statistiquement.
À Kaboul.
Québec sont weird.
À Québec sont weird?
Québec, des fois, c'est...
T'aimes pas le public des Québec?
C'est pas que j'aime pas le public. Non, pour le monde du ciel, non. C'est que... Des fois, à Québec, j'ai l'impression qu'un numéro qui va rentrer vraiment crispement bien, que je vais avoir rodé, que je suis en confiance, je suis comme « OK, all right, mes affaires, ça va bien. » Je vais l'essayer à Québec, puis ça va être un flop total et j'ai rien sur quoi m'accrocher parce que ça a toujours fonctionné. Je suis comme
C'est quoi les... par exemple, quand tu joues à Québec, y a-tu des soirées d'humour en ce moment à Québec où c'est genre le Comedy Club?
Il y en a une couple. À l'Anti, je suis allé là lundi passé.
OK, il y a ça. Il y a l'autre au... comment ça s'appelle? C'est Sam Dubois qui boucle cette affaire-là. À la chute. Non, c'est pas ça que ça s'appelle. La source.
La source.
Mour à la source.
Oui.
Il y a ça. Il y en a deux.
OK.
That's it.
Il y a pas Kevin Montreuil aussi qui a un show à Québec?
Ouais, Kevin Montreuil, c'est à Lévis, si je ne m'abuse.
Ah, OK. C'est pas pareil Québec-Lévis, hein?
Pas techniquement la même chose. Puis cette soirée-là n'existe plus, de toute façon.
Il y a beaucoup de soirées qui meurent, hein?
Parce qu'il y a beaucoup de soirées en général.
Oui.
Sur la chaîne alimentaire.
Puis aussi, souvent, les boss de bar font « Hey, ça marche l'humour! » Fait qu'aussitôt que quelqu'un arrive, « Hey, j'aimerais faire une soirée d'humour. »« Ouais, ça marche l'humour. » Puis là, ils réalisent que ça marche pas tout le temps, partout. C'est, il y a certaines places que c'est pas fait pour avoir de l'humour.
Ben oui. C'est parce que... Ça va être le monde que tu vas attirer, ça va être la clientèle cible de ton bar, puis si tu choisis une mauvaise place, ben oui, tu vas te ramasser avec des totons qui dérangent, puis des irames. Fait oui.
Des opossums.
Oui, des opossums, exactement.
Moi, j'ai fait un show hier dans une petite place que le boss m'a dit quoi que je trouvais absurde. C'était cute, mais j'ai fait « Ah, c'ti, il va falloir que quelqu'un vraiment y parle », parce qu'il m'a dit avant le show, il a dit « Là, il y a un gars, il parle tout le temps, asti, puis il dérange. » Fait que là, j'ai fait « OK, mais sors-le, asti. » Puis là, il a fait « Mais c'est ça que Mariana m'a dit, mais Chris, tu peux pas le sortir, c'est un gars de la place. » Puis là, j'étais comme « tabarnak, OK, c'est mal comprendre un show. » C'est pas parce que le gars, il reste sur ta rue qu'il a le droit de jaser pendant un show.
Souvent, c'est des places où tout le monde connaît tout le monde est-ce que c'est...
Ouais, c'est plus touché. Faire « Toi, décolles, on se voit demain. »
Ça vaut-tu la perte de ça?
Mais...
Vous êtes banni à jamais,
Moi, j'ai déjà eu un show, il y avait un club, puis il osait pas le sortir parce qu'il achetait beaucoup de bière. Fait qu'il faisait beaucoup vendre au bar. Mais il était désagréable.
Cyclique,
mais... Plus il boit, plus il parle. Fait que...
Moi, hier, par exemple, c'est une salle de spectacle. C'est ça qui était weird. C'est une petite salle de spectacle. J'ai fait « OK, c'est weird. » En estime.
Mais il disait quoi?
Mais il répondait à tout. Puis là, j'ai juste...
Juste un dos ou?
Ouais, juste un dos. Puis là, mais à chaque phrase, puis là, tu sais, j'y ai parlé, puis là, j'ai comme expliqué de « Regarde, esti, c'est pour ça que t'as pas de micro. » Tu sais, puis j'étais comme « Regarde, ferme ta gueule, s'il vous plaît, ferme ta gueule. Tout le monde te connaît. T'as de l'air d'un imbécile, là. Tu te fais honte, là. T'sais, pis là, c'est de même que j'ai fait fermer sa gueule en lui faisant réaliser que vu que tout le monde le connaissait, il va devenir le petit colon du village.
Grosse campagne de violence psychologique.
Ouais, non, c'est ça. J'ai tout ressorti les affaires.
Le détruire de l'intérieur,
J'ai fait tout ce que les médias disent que je fais depuis des années. Je l'ai fait pour de vrai. Mais mon but, c'est ça. C'était que je veux juste... Ben, c'est normal. Tu veux que le monde ferme leur gueule.
Mais c'est drôle, parce qu'on dit, on est une des Non. On est une des seules disciplines artistiques où...
Je pense, Bass, il a peur, vu que t'as de l'air latino un peu. Fait que là, il était comme...
Non.
Non, on est une des seules disciplines que... Le public influe sur la performance directement. Puis il y a des fois, c'est ça, tu peux arriver avec du stock qui est béton, du stock qui est rodé, mais si le monde n'a pas envie de voir ça, si le monde t'aime pas la face, c'est eux autres qui vont décider si ça va bien se passer. Puis c'est... Tu sais, t'as pas ça au théâtre.
Non.
Ils jouent leur shit, puis...
Ou mettons, tu sais, un peintre, tu sais, des toiles, t'as jamais le public qui font « Ah! »
Mais non!
Tu sais, j'aime pas ça, tes dessins.
C'est l'air de faire ça. J'étais en train de le peindre, merde. Ouais, non, c'est étrange, puis on est un petit peu à la merci de ça, puis c'est pour ça qu'il y a une job de compromis, là, une job de...
Oui, ben, des fois, je vais dire, on est un petit peu la pute.
Oui.
C'est que des fois, on doit s'adapter à la foule qui est là. Tu sais, à Montréal, je vais jouer montréalaise. En région, je vais plus... Tu sais, je vais... Non, mais je vais faire un peu de tour d'eux.
Tu mets une calotte,
j'arrive en...
All right!
Ah, c'est ça.
T'as un brin de foin.
Mesdames et messieurs, monte de région.
Non, mais j'ai pas un mode de région, mais tu sais, mettons que... Il y a des mots que je vais... Pour vrai, dans mon wording, il y a des mots que je fais... Ah, ça, ils comprennent pas ce mot-là. Ouais. Ouais.
Moi, j'ai arrêté de faire ça. C'est peut-être moi qui ai vu que je suis rendu plus vieux. Je suis peut-être plus accessible. Mais tu sais, ma première tournée, je me rappelle des fois quand j'allais en région, je me disais, ah ça, je peux pas faire ça, ils vont pas. Puis là, à cette heure, je fais fuck you, c'est ça que je fais. Ouais. Puis ça.
Ben pour vrai, moi au début, j'avais peur d'avoir l'air snob en région. C'est ça que, on dirait que c'est ça que je dégageais. Je veux pas, je les traite pas d'épais. Je veux leur faire rire, c'est tout. Fait qu'arriver avec une attitude de, j'ai le goût d'avoir du fun, on dirait que ça se ressent. Je sais pas si. Ça serait ça.
Fait que la mode de région est plus party.
Elle est plus party, ouais. Okay. Tu vas boire une bière de plus avant en région.
OK.
Ouais. Saguenay, t'as dit? Saguenay, c'est le fun jouer là.
Ouais.
C'est vraiment. T'es allé récemment,
c'est,
là.
C'est plaisant.
C'est le fun
au bout. Saguenay, puis les filles sont tellement belles. Elles ont
les filles sont belles.
Elles ont un bel ancêtre commun, là. C'est.
Oh, c'est vrai. C'est vrai. Hey, la lumière rouge est allumée. Ça fait combien de temps qu'on roule? OK, parfait. On commence-tu les... Y a-tu quelque chose que vous voulez parler ou est-ce que vous voulez...
Ben, plus d'anecdotes sur les nazis, ça serait vraiment fantastique.
Il y avait pas assez de nazis.
Te rappelles-tu, Mike, quand j'ai perdu ton chien?
Ben, je me rappelle pas. Je me rappelle de ce soir-là.
Tu m'en veux pas, là?
Non. Ben, moi, j'ai appris que t'as perdu mon chien sur le podcast.
Ah, ouais?
Moi, je le savais pas.
Sur le podcast?
Ouais.
Que Yannick?
Ce podcast-ci?
C'est Yannick qui m'a dit ça.
Ça se peut.
L'avez-vous retrouvé?
Moi, j'ai fini par le trouver. J'ai couru après. J'ai cherché.
Parce que c'était le premier soir que je t'avais vu.
Ouais, au bar à Chico, Longueuil, t'habites à côté.
Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai invité le monde à venir chez nous.
Elle t'a conduit sous jusque chez vous.
Ah oui, mais t'as
tu nous amené. Ah, vous amène chez nous, on va boire.
Mais
là, on arrive, j'ouvre la porte, tu dis attention au chien. À quoi? Puis là, il y a un petit rat. Tu sais, ton. Non, mais Oggy, ton chien, c'est le frère du chien de ma coloc.
Ben ouais.
Ouais, c'est un petit chien. Mais là, il est sorti. Je fais attention au quoi? Là, j'ai couru dans Longueuil, puis j'étais saoul, fait que je riais, puis je pleurais, parce que c'est drôle, puis c'est triste.
C'est pas je parais que le premier soir, tu rencontres
que je te rencontre,
tu tues son chien.
Hey, j'avais assez peur de le perdre pour vrai, là. J'ai fini par le trouver, mais je savais plus j'étais où. J'appelle Yannick en pleurant. Lui aussi, était perdu. On s'était tous séparés pour trouver le chien, si c'était une bonne idée, tu sais. Puis là, je rentre chez vous, puis t'étais couché à terre avec un bol de chips sur le ventre devant la TV.
Non, c'est pas un bol de chips, c'est un bol de bouffe à chien. C'était Yannick qu'il voulait attirer le chien.
Oh,
puis là, moi, j'étais couché. Fait qu'il avait mis la bouffe sur moi pour que le chien sente la bouffe puis son maître. Mais là, j'étais comme, asti que mon chien, il a l'odorat... horrible, là, tu sais, c'est ça, mais tu sais, il va sentir de la bouffe s'il est là, mais pas s'il est à deux coins de rue, il va pas comme, ça sent la bouffe sec.
C'est un petit chien?
Ouais, c'est un petit chien.
C'est le frère d'Eugénie.
C'est un petit Yorkshire, là, tu sais.
On a joué à Dieu.
Il l'aime vraiment pas.
Ah ouais?
C'est dégueulasse, quand ils ont des gros crânes difformes, tu peux pas les flatter.
Ça fait des bruits d'insectes.
Mais toi, ton chien, ben le chien...
Le chien Nadine.
Nadine, c'est une petite criche, je trouve.
C'est une petite criche.
Elle vient chez nous à mort, Guy, tandis que moi, mon chien, il est super fin, il saute, puis il saute tout le temps.
Un mâle, en plus?
Ouais, c'est un mâle.
Est-ce que tu le prends? Tu le prends dans tes mains?
Moi, je le mets dans ma sacoche.
T'as pas peur, Jean?
Non, moi, c'est le chien. Moi, qu'est-ce qui est drôle? J'ai le même chien que Michel Giroir. Puis, tu sais, un moment donné, je faisais un show, puis là, Michel Giroir, il apprend qu'on a le même chien. Puis là, il me donne plein de conseils. Mais moi, tu sais...
C'est cachou, ça.
Michel Giroir t'a donné des conseils de chien?
Michel Giroir... Cachou.
C'est cachou, son chien?
Je le sais pas.
Tabarnak. Tu connais les nazis et les chiens.
Michel Giroir.
Michel Giroir.
C'est ben étroit comme corridor.
Mais ouais, c'est ça. Fait que lui, moi, j'ai appris quoi le nourrir grâce à Michel Giroir. Puis moi, j'aime mieux les petits chiens que les gros
chiens.
T'as
pas peur de les prendre pis genre, d'effleurer leur petit pénis de chien? Moi, c'est, non, mais c'est quelque chose qui...
Pas,
Non,
mais tu sais,
ils ont pas de poils. Ils ont pas de poils.
Je sais pas comment, yes. Mais tu sais, je le pogne par le chest.
Il est castré?
Il est castré. Mais je le pogne par le chest.
C'est pas le pénis qu'on enlève, c'est juste les...
Mais ça leur fait du mal, un coup?
Non, mais il y a encore, genre, une espèce de fourreau pénis dans lequel
un petit rouge à lèvres,
le pénis de chien rentre, là, pis il y a tellement de façons différentes d'effleurer ça, il y a pas de poils là-dessus, là.
Tu le tiens par le chest. Ou, ouais, tu le tiens par le... Tu le pognes pas. Tu le frottes pas ses couilles.
Tu le pognes pas.
Moi, j'aime mieux des mâles parce que quand tu flattes une femelle, tu pognes les mamelons. Vu qu'ils ont 8 mamelons...
Les mâles ont des mamelons aussi.
Ben oui, ils ont des tétines.
Tu sais.
Oui, les mâles aussi.
Mais les mâles sont peut-être... Les tétines sont rentrées par en dedans. Tu sais, les femelles,
T'as des mamelons toi aussi, Mike?
Non, je sais, mais les mâles... T'y sens pas quand tu flattes, mais les femelles, t'y sens.
Ça doit être parce qu'elles ont des gros tits.
Non, mais je le sais.
Des gros tits de chien.
Mais ça, la première fois que j'avais remarqué ça, j'avais fait, ah, c'est weird. J'aimais pas ça, pogner des mamelons de...
Des chiens.
De chiens, ouais, c'est ça.
C'est vrai que ça...
Des tits de chien. Mais des graines de chien, ça me dérange pas, tu sais. Je suis hétéro avec les humains, mais gay avec les animaux.
Ouais, content que tout soit rentré dans l'ordre, ma part.
Cachou.
Oui.
Cachou.
Cachou. Mais ça me dit cachou. Michel Giroir, c'est celui qui a genre la face la même couleur que ses cheveux, là.
Oui, j'aime ça que t'es pas sûr c'est qui Michel Giroir, mais t'es sûr le nom de chien.
J'y vais au nom, là.
Michel Giroir, c'est le petit monsieur bronzé.
Super bronzé.
Qui est comme, c'est le TMZ des années 70 québécois.
Mm-hmm.
Tu sais, il connaît tout sur nos vedettes, puis tu vas sur son Facebook. J'aime aller sur son Facebook, mais c'est sûr, il y a des photos de lui avec Céline.
Ouais.
Tu sais, il fait très showbiz.
Il était pas à Flash?
Je pense qu'il est trop vieux pour être à Flash.
T'sais,
il devait être à l'ancêtre de Flash. Je sais pas c'est quoi l'ancêtre de Flash.
Flashus, le équivalent latin. Flash au room.
Il est au fils à
papa.
Oh. Asti que ça sonne comme une orientation sexuelle, ça. Il était au fils à papa.
Fils à papa.
Qu'est-ce qu'il faisait au fils à papa? Chronique Hollywood, OK. Parfait. Là, je sais pas si vous avez des questions. À propos de Cachou ou Michel Giroir. Si vous avez des questions, le micro, il est juste là.
Mais il paraît qu'on a fait le tour de tous les sujets imaginables.
Mais non, mais comment, il n'y a pas une question sur Mike?
Il y a zéro question, tabarnak. Oh, il y a une question, c'est nazi.
Oui.
Va au micro.
Que se passe-t-il?
Oh, non.
Comment puis-je vous éclairer, pèlerin?
Yes. Y a-tu quelqu'un qui se lève ou... OK, bon.
Oh, toilette.
Vous autres, t'as-tu envie de pisser?
Ouais, ça va pour l'instant.
Okay.
Je peux me retenir, toi, t'as-tu?
Ouais, c'est progressivement envie de pisser, là, mais on va l'avoir.
On va l'avoir, on va être capable de toffer. Ouais.
C'est la première fois qu'il y a zéro question.
Ça me fait vraiment... J'avais dit, en plus, je t'avais dit d'un coup qu'il y a personne qui a eu une question.
Ben, non, en fait,
d'un coup,
pas.
Personne s'intéresse à notre vie.
Là, c'est le moment de la question de pitié.
Est-ce que vous aimez le brocoli?
Il sent beaucoup mieux maintenant.
Tu veux-tu aller au micro ou tu veux la créer de là? Et je... OK, il a pas le goût de se lever. Fait que
une question importante.
Il nous aime, mais juste pas assez pour bouger. Une question pour moi, oui. Oui. Je bitch souvent l'école. Ça serait quoi le côté positif de l'école? Moi, pour de vrai, l'école... ce qu'il y a de positif, toutes les cours qui sont pas à temps plein, j'ai conseil au bout. Tu sais, les cours de soir, vu qualité-prix. Même l'école du monde, si l'école
Moi, j'ai fait les cours de soir.
Si l'école était gratuite, Moi, je dirais, va là. Mais c'est juste, c'est tellement cher. Moi, c'est plus un peu ça.
C'est pas une finalité. On fait beaucoup croire aux gens que c'est une finalité pis qu'il faut faire l'École nationale de l'humour pour être un humoriste. Pis Chris, t'as des fucking Maud Landry qui apprennent à gratter leur guide tout seul.
Mais tu sais, mettons, Yannick aussi a pas fait l'école, pis je pense au, le cours de chant pis le cours de clown, qui est quand même beaucoup de cours. Il n'y aurait pas eu besoin de ça, Yannick, d'un cours de chant. Il n'y en a pas besoin.
Mais ça dépend, ça. Je veux dire, c'est des affaires qui sont offertes, justement, aux gens pour tout à coup que tu découvres que
t'es
bon.
Tout à coup, tu veux être imitateur, tu sais.
Mais oui. C'est l'objectif d'une formation, comprendre ce que ça
fait. Ben, ça serait le fun de pouvoir prendre comme au cégep, des sessions, des cours que tu veux.
Ouais.
En humour.
Moi, il y a une affaire aussi que j'aime pas, puis là, je trouve les côtés positifs, là, mais c'est trop cher. Moi, j'aime pas ça. Mais ce que j'aime pas, c'est que l'école, mettons, dans une année, il y a des années qu'il y a 12 élèves qui sont bons. Une année, il y en a deux, mais ils en prennent tout le temps 12 ou 15 parce que c'est devenu une business. C'est pour la raison pourquoi ils ont les cours de clown, de chant, c'est pour avoir les subventions. Pourquoi qu'ils ont les cours de français d'école, c'est pour avoir les subventions. Fait que, mais moi je trouve que c'est vendre des menteries à du monde qui ont pas de talent. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont pas de talent, puis ça serait mieux de leur dire, regarde, t'es pas très bon, va faire des open mic pendant une couple d'années, peut-être que tu vas devenir bon.
Mais c'est vrai qu'on apprend se pétant à gueule.
Ouais.
Mike, ça serait-tu quelque chose que t'envisagerais? C'est moi?
Oui.
c'est la voix. La voix du loft.
Le monde ne le sait pas, mais Yann, il est allé attendre en ligne en arrière.
C'est-tu quelque chose que t'envisagerais de partir une école, mais qui
non,
ressemble
non, non.
plus?
L'école, l'humour, ça s'enseigne pas, ça s'apprend, mais ça s'en... Moi, je crois encore dans les cours du soir, mais je suis plus de l'école à la, tu sais, très stand-up américain. Que tu peux pas enseigner l'humour.
Mais la beauté de tout ça, c'est que comme dans n'importe quelle forme d'art, t'as plusieurs façons de l'emballer, t'as plusieurs façons de te l'approprier. Oui. Puis je pense que justement, des cours de chant, des cours de clown, des cours de whatever the fuck, c'est toutes des trucs qui vont justement s'ajouter dans tes expériences personnelles en tant qu'artiste, puis tu peux recycler, puis tu peux utiliser, puis tu peux tu peux utiliser pour bonifier ton stand-up aussi américain sois-tu dans ta démarche.
Tu sais, tu peux pas l'apprendre, mais tu peux partager la bonne nouvelle. Ça sonne super Jésus-Christ, là, mais partager la bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai eu plein de monde qui étaient plus haut que moi dans relève, qui m'ont donné plein de conseils, qui ont été super généreux.
Mais ça c'est malade. Ben,
oui.
Mais puis à l'école, t'es capable d'apprendre ça. Je pense que c'est qu'il faut être conscient c'est quoi l'école. Puis moi, le conseil que je donne tout le temps aux jeunes qui vont là, il faut en prendre pis en laisser aussi. C'est que si tu arrives là pis tu te dis, OK, ça, c'est la vérité, ça va prendre 5 ans à désapprendre tout ce que tu as appris. Mais si tu fais, OK, ça, pour moi, ça marche, ça, c'est n'importe quoi. Il faut que tu gardes ton côté.
Ouais, mais ça, c'est un travail qui est personnel. Ça, c'est moi, j'ai décidé d'être ce genre d'artiste-là. Je vais prendre cette expérience-là que je trouve positive, cette expérience-là que je trouve formatrice, tout, puis le négatif, je le tasse à côté. Fait que c'est pas à l'école de choisir qu'est-ce qui est positif ou négatif. Bon,
c'est qu'il y a tellement de nuances dans ce métier-là que tu peux pas faire le tour en 2 ans.
Il y a une infinité de façons de faire du stand-up. Puis je pense que tous ces cours-là sont importants parce que c'est formateur. Puis à la limite, justement, choisis que si le cours de clown t'a rien apporté, ben ne fais pas de l'humour clownesque. Mais si ça te donne un meilleur jeu, si ça te rend plus tête dans tes act-outs,
mais c'est
si
plate qui te l'impose.
Ben c'est l'école. L'école a toujours imposé les cours qu'elle voulait imposer au monde. C'est ma vision des choses. Là, tu vas ressortir de là avec ce que tu vas avoir décidé de prendre, puis si t'es là juste pour s'aîner, ben fine, mais c'est toi qui dépenses énormément d'argent dans le vide à ce stade-là.
Si t'essayais le clown en région, ça pognerait plus. Je suis sûr.
Dans moi, personnellement.
Ouais, en clown en région.
Ah, c'est une petite bonne idée.
Pour vrai, oui.
Je n'ai plus qu'à attraper le prochain wagon de cirque et c'est parti pour la gloire. Beauce Carnaval. Allez faire un beau numéro de mime à Beauce Carnaval. Ça va être bon pour ma carrière, Maud. Beau
brainstorm.
Là, vous autres, cet été, vous faites votre show à ZooFest.
On fait.
Ça, c'est vrai, ça va passer après ZooFest.
Ben, pendant, genre, vraiment.
Fait que là, c'est quoi votre show? Vous faites chacun 30 minutes?
Oui. Ben, en fait, pas tout à fait. On fait 60 minutes ensemble. Fait que ça okay. va être comme 10, 10, 10, 10, puis des sketchs.
OK. Vous rouvrez avec un numéro à deux, closer.
Exact. Ça s'appelle Charles Lémoule, s'en mêle. Fait que l'objectif, c'est
s'entremêler.
De s'entremêler dans nos affaires. Faire des numéros, faire une couple d'interactions, puis tout ça soit très...
Anti-show.
Anti-show.
C'est ça qu'on s'est dit, anti-show.
Il y a une volonté, okay. genre, anti-show ou fait, c'est-à-dire faire arriver là, sans être décroché nécessairement.
Non, mais que comme... tout ce qui est commun de faire dans les shows à deux, on l'accuse. Puis on fait, ah, d'habitude, on ferait ça, parce que c'est ça, que ça comme ça que ça marche. Okay. Puis...
Ouais. Fait qu'un show qui va marcher au bout à Montréal, puis ça c'est le genre d'affaire.
J'ai vraiment hâte de faire ça en région, Maud.
Oh boy!
Les gens vont vraiment avoir le degré.
On va le faire en clown.
J'aime ça, c'est que le mépris que j'ai pour l'école, tu l'as pour la région.
Non! Les gens de région sont fabuleux. Il y a plein de places crissement le fun. C'est juste que, personnellement,
le monde
moi,
de l'école
j'ai
aussi, par exemple. Je veux juste, non, mais c'est vrai. Le monde de l'école, l'humour, j'ai
ben oui, moi, ben oui,
c'est
moi
du
aussi.
Bon monde qui travaille là-dedans.
Ben oui.
Mais la région, c'est cool. Il y a du monde vraiment, c'est ben, il y a des places vraiment le fun. Oui. Personnellement, j'ai.
Vraiment.
Yes.
Moi, il y a une affaire de l'école, par exemple, que je veux dire. Les cours d'écriture. Ça, à temps plein, je le conseille. Quelqu'un qui veut être writer, tu vas apprendre 1000 affaires, mais une chose que je conseillerais à ceux qui font les cours de writer, ce serait une fois dans ta vie faire du stand-up, d'un open mic, juste pour voir c'est quoi le feeling de...
Il y en a pas mal qui le font.
D'avoir de la misère sur scène.
Tous les auteurs devraient au moins...
Tous ceux qui sont bons ont déjà fait de la scène au moins une fois, parce que sinon, les autres font comme « Non, non, ça c'est drôle en tabarnak », puis t'es comme « C'est vraiment pas drôle, là. » Tu sais, c'est...
Mais il y en a une couple qui le font, genre des auteurs nouvelle génération, là, dernière cohorte école de l'humour. Il y en a qui l'essayent une ou deux fois pour le plaisir, juste pour for the fun of it.
Mais il faut prendre le risque devant public, voir si c'est drôle ou si c'est pas drôle.
Puis c'est tout des esthétiques de bons auteurs, là. Ceux que j'ai vus en stand-up jusqu'à maintenant, c'est toutes des crises de bons auteurs, puis ça paraît, là. C'est tight.
Mais j'ai l'impression que l'école de l'humour, le programme auteur, il y a moins de cours inutiles.
Oui, moi
aussi. Il y a moins de clowns, de respiration, de...
Parce qu'il y a moins, d'options qui sont offertes si t'as décidé de s'écrire, de te concentrer sur un aspect humoristique. Tandis que je pense que humoriste mise justement sur le fait que tu t'es pas encore trouvé, tu t'es pas encore construit. On va te donner tout le shitload des possibilités humoristiques sur l'arc-en-ciel du spectre des possibilités qui s'offrent à toi. Puis après ça, choisis ce que tu veux, garde-en, laisse-en, puis débrouille-toi avec
mais
ça.
Mais ça doit être bon pour travailler en équipe, ce qui est quand même une bonne chose en humour. À l'école, d'apprendre à travailler en équipe. C'est quand même 2 ans avec la même gang.
Ça dépend, il y a du drame en esti,
il y a toujours du drama,
les chicanes en tournée de l'école.
Qui couchent ensemble, puis c'est
toi,
vrai?
Ça couchait-tu beaucoup ensemble?
On avait une fille, non. Il y avait...
Okay. Il fait une fille?
Une fille, oui. Elle avait un chum qui était un des deux de la cohorte, fait que non, il y avait pas de... Nous masturbions beaucoup.
OK.
ça se crossait librement.
Excellent. Y a-tu une autre question? Oui? OK. Yes. Et le premier qui se lève.
Ouais,
yes, on
merci.
Devrait t'applaudir. Yes. Yes. C'est quoi ton nom?
Benjamin.
Benjamin. Salut, Benjamin. Salut. Merci de te lever.
Ben, la force, une question pour les trois. Ben, concernant l'école de l'humour, est-ce que ça serait pas avantageux, justement, pour donner intérêt que ce soit plus pertinent d'enlever les subventions à l'école de l'humour. Parce que, de la manière que je perçois ça, les cours de clown, ils seraient pas là s'il y avait pas de subventions. Et de la manière que je comprends ça aussi, la majorité du monde, ils trippent pas trop ces cours de clown. Donc, est-ce que, sur vous, serait pertinent d'enlever les subventions?
Moi, je pense, s'ils enlevaient les subventions, l'école de l'humour coûterait 900 000 par année. Ça serait vraiment trop cher, tu sais. C'est parce que les profs sont quand même assez bien payés. La direction, je sais pas comment qu'ils gagnent, mais sont bien payés.
Non, mais dans le sens où si l'école avait moins de budget,
Ouais, tu sais, ben sans les subventions, l'école effectivement aurait moins de budget, mais s'il y avait
plein
les institutions qui s'améliorent en ayant moins de budget.
Mais je sais pas, je suis sûr qu'il y aurait des profs bénévoles qui seraient game.
Moi je sais pas. Moi j'aime beaucoup la relève. Puis quelqu'un, mettons, mais j'irais pas, tu sais, à l'école gratuitement. Enfin, je vais vous montrer, parce que je serais très snob, tu sais. Je serais très comme, à toi, tu devrais pas être là, là. Tu sais, je serais...
Toi, t'es pas bon.
Ouais, c'est ça. Je serais trop snob, je pense, pour être prof à l'école.
Est-ce qu'il faut enlever des subventions? Je pense pas qu'il faut enlever des subventions à une institution scolaire. Je pense que, justement, ils ont fait... C'est peut-être moi qui ai de bonne volonté, là, mais je pense qu'ils ont établi leur cursus en fonction de, justement, t'offrir, on en revient à ça, mais t'offrir le maximum d'outils possibles. Est-ce qu'on devrait enlever des cours? Est-ce qu'on devrait utiliser la crosse de leur enlever des subventions pour que les cours les moins populaires s'en aillent? Je pense pas.
Oui. Moi, il y a une affaire, j'ai trouvé une affaire de positif à l'École du Monde. Tu sais, l'école a été fondée à l'époque parce que, juste pour rire...
C'est un programme de réinsertion, hein?
Ben, au début, juste pour rire, il y avait pas assez d'humoristes francophones pour nourrir le festival. Tu sais, les premières années, il y était 6 humoristes, puis là, Gilbert, il avait eu l'idée de, on va partir à une école. Il a demandé à Louise, vu qu'elle s'occupait des lundis des AA, c'est devenu un programme de chômage. Et là, ils ont créé des humoristes, mais après un bout de temps, J'ai l'impression que l'école était meilleure les premières années quand c'était un peu artisanal. Moi, j'aime les projets artisanaux.
Comme un peu broche à foin, on décide.
J'aime le broche à foin.
Ouais.
Tu sais, mais c'est moi, c'est là, tu sais. Moi, je partirais à une école, je ferais faillite dans les 4 premiers jours, tu sais.
Tu finiras en cours, c'est sûr.
Ouais, je finirai en cours. C'est sûr. Avec toutes les hosties naïves qui ont payé 15 000 piastres.
T'as insulté un petit gros qui était pas bon. Pour ça en cours.
Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense que non, c'est ça. Couper les subventions de l'école, ça réglerait rien, tu sais. Je pense. Une autre école. Déjà, je trouve ça absurde qu'il y ait une école d'humour, qu'il y en ait deux.
Il y en a-tu une en Haïti?
Il y en avait une.
Il était censé faire ça, mais ça me semble être vraiment bizarre.
Mais moi, pour de vrai, je suis allé en Haïti.
Mais ils ont déjà pas de bâtiment.
Moi, j'avais fait...
Il y a rien!
Mais qu'est-ce qui est weird? J'ai fait un show en Haïti, puis j'avais fait un show pour Haïti ici, et il y avait 4 des étudiants de l'École de l'humour. Qu'est-ce qui est drôle en Haïti? Tu sais, ici, le monde qui veut devenir humoriste, d'habitude, c'est du monde qui sont pas l'élite de la société, à part ta famille, à toi, là. Mais tu sais, souvent, c'est du monde qui vient de famille col bleu, un peu. Mais là-bas, il y en avait 2 que c'était des médecins, une avocate, puis un autre que c'était genre un scientifique ou quelque chose. Et là, j'étais backstage, puis je me disais, « Mais semble qu'Haïti a plus besoin de médecins que de monde qui connaissent des règles de 3, tu sais. »
Oui.
Fait que, mais il y a eu une école d'humour à Québec pendant 3 ans.
Il était pas censé en ouvrir une au Maroc, si je ne m'abuse.
C'est vrai?
Je pense qu'il y avait des plans d'ouvrir une école de l'humour, genre nord-africaine. Hein, pis...
Mais comme basé sur le prototype
basé
de
sur
celui
le cursus montréalais, là,
Montréalais,
donner des cours de clown.
Moi, je pense, par exemple, au Maroc, ça serait une bonne idée les 3 premières années. Au début, c'est que je trouve que... Dans un marché qui a passé d'humoriste, c'est bon vu que ça donne le goût à du monde qui aurait pas fait de l'humour.
De faire une école, un spécial, genre 3 ans seulement, puis.
Ouais, non, mais tu sais comme toi, t'es une vraie humoriste. Tu sais, vu que t'as décidé de faire ça, mais souvent je parle à du monde qui disent ah moi sans l'école, je serais pas devenu humoriste.
Ils sont pas game
sans.
Ouais.
Mais t'es pas humoriste si tu l'aurais pas fait sans l'école, tu sais. Je pense, c'est mon avis à moi.
T'sais. Ben c'est un point positif de l'école. Il y en a que ça a motivé de faire l'école.
Ouais.
Qu'il aurait pas été humoriste s'il avait pas fait l'école, ouais. Tu sais. J'imagine.
Oh ouais, non, c'est ça. C'est positif.
C'est, ça doit être positif. C'est semi, c'est,
ouais. Ouais, non, c'est, j'essaie de, mais, un point positif.
Ben, positif, c'est sur Delorimier Sherbrooke. C'est cool, ouais. Ça. Puis, c'est proche de toi.
Tu sais, souvent, je parle contre l'école, mais Louise a fait vraiment ça, puis elle a fait ça pour les bonnes raisons. Elle aime oui. vraiment beaucoup l'humour. Et elle, avec l'école, elle a fait son mieux, puis là, il y a eu du monde comme moi qui...
Je pense qu'il y a eu une grosse job d'exploration du milieu avant de faire l'école, puis ouais. c'est une belle recherche.
Puis les pendant un bout de temps, l'école, c'est comme perdu. Puis là, j'ai l'impression, depuis une couple d'années, qu'ils sont retrouvés.
Qu'est-ce que tu veux dire, ils sont perdus?
Pendant 4-5 ans, j'avais l'impression, chaque fois que je voyais des finissants de l'école, c'était tout le temps, ils étaient tous identiques, puis c'était de la formule.
On dit souvent moule, on dit souvent milieu, que c'était un moule.
Puis après, tu voyais du monde qui avait pas fait l'école que tu faisais, ah, tabarnak, OK, enfin quelque chose d'original. Mais depuis au moins 10 ans, il y a du monde, tu sais, il y a du monde comme toi, que toi, dans les débuts 2000, t'aurais pas pu exister à l'école vu qu'il t'aurait fait lâcher ou il t'aurait fait sortir puis tu ressemblerais à 8 autres stand-up, tu sais. Tandis que là, je trouve, il laisse plus de liberté.
Moi, je pense que si tu sors... OK, ça, c'est vraiment mon humble avis là-dessus. Là. Si tu sors de l'école puis ton style est pareil à plein d'autres gens puis surtout aux gens de ta cohorte, c'est t'as pas essayé de te trouver, c'est que t'as fait l'humour à numéro, c'est que t'as fait de l'humour mathématique, puis c'est pas nécessairement la faute de l'école, ça c'est toi. Est-ce que t'as envie d'avoir du succès? Est-ce que t'as envie d'être le plus grand public possible? Est-ce que t'as envie de donner aux gens exactement ce que tu veux qu'ils aient, exactement ce qu'ils veulent avoir, ou ça te tente de faire quelque chose qui te fait plaisir à toi et qui coïncidemment les gens vont apprécier parce que t'as été capable de trouver un compromis?
Mais toi, Charles, t'as été oui.
Merci.
Oui, merci. T'as été unique dès le début. J'ai jamais pu te comparer à un autre humoriste. Même depuis en route, dès que t'es sorti de l'école, t'étais pas un moule.
Ouais, non, merci, Défine. Ben, oui, mais oui, parce que j'aime ça faire mon métier parce, de cette façon-là.
Parce que t'as eu une enfance de désaxé. Ben oui. Aussi parce que...
Bon point! Non, c'est faut se faire plaisir, puis faut
s'amuser.
Tu sais, ce job-là, c'est en tout et pour tout, c'est convaincre, arriver à convaincre les gens que ce que t'as pensé dans ta tête, c'est drôle, puis leur expliquer suffisamment bien que c'est drôle pour qu'ils trouvent ça drôle eux autres aussi. Fait que si ça te fait rire toi-même, je veux dire, t'es pas une pute, donc tu fais pas de l'humour à numéro, donc t'es pas de la saucisse, tu sors de là.
Pis non, je pense, je vais juste rajouter une chose. Pour les nouveaux humoristes, je pense que c'est plus important d'être original que d'être efficace. Parce que t'es pas supposé être efficace les 6 premiers mois.
Efficace va venir éventuellement.
On dirait qu'il faut attirer l'attention avant d'être drôle. Il faut être intéressant.
Nombre d'humoristes qui sont platement efficaces. Non, qui sont vraiment platement
efficaces. Un job.
Ça marche partout. Mais c'est-tu intéressant? On est-tu en train de sortir d'une convention, de sortir du moule, on est en train de parler d'autre chose que le même petit sujet de ma blonde est enceinte, je suis allé au camping en fin de semaine, c'était de la merde. On est en train d'essayer de gratter la peinture pour amener ça ailleurs, pour faire évoluer cette forme d'art là où on donne exactement aux gens ce qu'ils veulent avoir puis ce qu'ils ont toujours ri depuis les dernières années, format 7 minutes gala juste pour rire.
Il y a pas assez de numéros, c'est nazi. Moi, c'est ton défi. ZooFest, cette année, vous faites un Zoom. L'année prochaine, j'aimerais un show.
60 minutes.
C'est 60 minutes et 60 façons de tuer Hitler. Ou un show de 42 minutes, les 42 façons que Hitler a esquivé la mort. Et t'appelles ça le cul plein de nouilles.
Hitler, le cul plein de nouilles.
Tu mets en plus, tu sais, le poster, c'est toi, Hitler, mais avec une culotte.
Ah oui, ça va vraiment bien virer.
Ça va être malade, je te garantis un succès.
Ah, un gars déguisé en Hitler sur l'affiche. Parfait, allons
fou,
voir ça.
C'est pas fou.
Toute la famille.
C'est malade. Mais ça va être la pub du show, ce bout-là du podcast.
J'ai fait Charles Beauchesne par de la peste noire pendant 60 minutes.
Quand même.
Vous vous faites dernier.
Non, ouais.
C'était 60 minutes sur la peste noire au Moyen-Âge, puis c'était
très drôle.
C'était gentil, merci.
Non, mais si, ça se voulait une conférence, ils voulaient faire rire sans prétention, mais c'était vraiment drôle. Au quart de tour, il nous faisait rire, il nous surprenait.
C'était une conférence historico-humoristique. Ça me tentait de parler de la peste au Moyen-Âge. Puis j'ai écouté deux documentaires, j'ai plugué des jokes là-dedans. Puis j'ai fait ça pour faire un gros spectacle, pour me masturber moi-même parce que je trouvais ça fun. Puis ça donne que... Ça donne que les gens ont aimé ça. Puis c'est, voilà, c'est sympathique. D'ailleurs, on fait, je leur fais le 29 juin, mais ça va passer après. Fait que ça n'a pas d'importance.
C'est où pour le monde?
Au Minifest. Minifest, le 29 juin, au Medley Simple Malte. Ça, c'est à la Plaza Saint-Hubert. Le 29 juin. Un prochain, allez checker les dates,
allez
les billets
le
sont
voir.
En vente sur internet.
C'est super intéressant.
Parce que tu vas pendant 60 minutes.
T'apprends plein d'affaires, c'est super intéressant. Allez le voir.
Oui. Excellent, je vais aller le voir.
Oui. Ben merci beaucoup. On va finir là-dessus. On a appris plein de choses. On a ri. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez plugger vos Facebook, vos Twitter? Ton Twitter, c'est.
C'est Landry Maude.
Landry Maude. Et toi, c'est
Sinistre Charles.
Sinistre Charles. Excellent. Ce sont les deux faciles à
faire. Ajoutez-moi ma page Facebook, Charles Beauchesne, sur la première page personnelle. Je joue tout le monde.
Excellent. J'aime ça. C'est
facile.
Je joue tout le monde.
Il y a tellement des weirdos dans mon feed.
Ah ouais, ça doit,
c'est
ça doit.
Vraiment déplaisant.
Je plein de messages. Moi aussi, je connais plein d'affaires à propos d'Hitler.
Oh! Oh!
Hey, merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, ceux qui regardent ça sur YouTube, et qui écoute ça sur wherever que t'écoutes ça. Yann Thériault va vous faire un infopub pour un podcast pour que le podcasting québécois devienne de plus en plus big. Merci beaucoup, à la semaine prochaine tout le monde.
Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast sur la motivation. Ça s'appelle Chronique croquante. C'est animé par Karine Deneau, qui est une auteure conférencière qui a écrit un livre qui porte le même nom, Chronique croquante. Et elle en a tiré un podcast qui en est déjà rendu à son 10e épisode. C'est un podcast sur le cheminement personnel, la quête du bonheur, des réflexions sur la vie. C'est vraiment bon. Karine va parler de tout ça en passant par ce qu'elle a vécu elle-même. Ça va parler d'amour. C'est un bon podcast qui fait du bien en dedans, qui fait du bien à l'âme. C'est pas downer du tout. Et surtout, Karine ne se prend pas pour une gourou. C'est vraiment un podcast sur la motivation, sur la vie. C'est un bon podcast qui fait du bien. C'est disponible sur la plateforme RZO, c'est sûrement disponible aussi sur iTunes. Et surtout, vous pouvez aller voir son site web qui est karinedeneau.com. Il y a, en plus du podcast, il y a son livre et il y a toutes sortes de billets là-dessus. Il y a de la lecture à faire là-dessus. C'est vraiment enrichissant comme podcast et très différent. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yannetherriault.com.